Super. Bien, donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, avec l'ensemble des membres de l'association CERES, donc du Cercle d'étudiants pour la recherche et l'éveil scientifique d'AgroParisTech, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour la conférence donc, de Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez sûrement tous, je pense, à travers ses différentes activités qui remplissent plus ou moins son frigidaire, comme il a l'habitude de le dire, puisque Jean-Marc Jancovici, donc, c'est le cofondateur de Carbon 4, donc, qui est une entreprise qui a pour but d'accompagner les entreprises vers la transition pour la décarbonation, le changement climatique ou encore pour préserver la biodiversité. Il écrit aussi de nombreux livres que je vous recommande d'ailleurs de lire, tels que la BD qu'il a récemment écrite, où il expose ses différents, son point de vue et sur les problèmes que rencontre actuellement notre planète. Et aujourd'hui, donc, il va nous faire une conférence. Donc, c'est pas une conférence comme il peut avoir l'habitude de le faire, mais ça va être une interview débat sur différents thèmes, sur l'agriculture, le changement climatique et également l'énergie. Donc, au cours de cette conférence qui sera divisée en 4 temps, Léa et Louis vont pouvoir lui poser des questions et il y aura aussi un espace, un moment d'échange.
Donc, on va pouvoir commencer, Léa, avec la première question.
Donc, je vais commencer avec le thème changement climatique et énergie, avec une question assez large. En tant que cofondateur de Carbon 4, croyez-vous que le système économique actuel peut être compatible avec la lutte contre le changement climatique ?
En fait, la bonne question pour moi, c'est est-ce que la nature humaine est compatible avec la lutte contre le changement climatique ? Parce que quand on regarde historiquement d'autres systèmes économiques que le système, on va dire, capitaliste libéral dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y en a d'autres dans le monde, ou il y en a eu d'autres dans le monde. Il y a eu le système communiste que j'ai connu quand j'avais votre âge, puisqu'à l'époque, il y avait tout le bloc soviétique qui existait, qui était dans un régime dit communiste. Et puis, il y a la Chine, qui aujourd'hui est une forme de capitalisme d'État, mais ce n'est quand même pas un capitalisme libéral au sens où on le connaît. Et aucun de ces trois systèmes ne s'est plus particulièrement distingué par sa sobriété en matière d'émissions. On ne peut pas dire que le système chinois ou le système russe, à l'époque où il était communiste, ait fait la démonstration d'une maîtrise de son empreinte environnementale qui soit manifeste par rapport au système capitaliste libéral dans lequel on vit. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond que ça dans la nature humaine, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle, enfin, mais ce qui est quand même une donnée du problème qu'il faut intégrer, qui est que l'envie de croître et multiplier et accumuler, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est propre à un système d'organisation particulier. Ce système d'organisation, il est plutôt là pour répartir plus ou moins bien les fruits d'une envie d'accumulation qui existe, quel que soit le système en place. À l'époque où le monde était régi par encore un autre système, à l'époque on était en monarchie, alors c'était une forme de système capitaliste, puisqu'il y avait les nobles qui avaient les moyens de production et puis les autres qui n'avaient rien. Mais c'est pareil, là il y avait une... Enfin, on ne peut pas dire non plus que la préservation de l'environnement a été quelque chose qui a été profondément attaché au système même. Voilà. Pour moi, c'est plus généralement attaché, je crois beaucoup plus au déterminisme géographique et biologique, c'est-à-dire qu'en gros, on préserve plus ou moins l'environnement en fonction de ce qu'on pressent comme étant nécessaire à sa propre survie et au maintien de l'équilibre dans les sociétés dans lesquelles on vit. Là, ce qui s'est passé, c'est que quel que soit le régime politique auquel on est affaire, encore une fois, qu'il soit communiste, capitaliste d'État ou capitaliste libéral, on a une possibilité technique d'accroissement de la production qui nous a été fournie par la machine à vapeur, le moteur à combustion interne et quelques autres avatars de cette nature. Et tout le monde s'en est emparé, quel que soit le régime politique dans lequel on était. Et quand on regarde les déterminants, enfin, ce qui structure les modes de vie et la pression sur l'environnement, en fait, on va retrouver beaucoup plus l'histoire des ressources naturelles et l'histoire des techniques que l'histoire des régimes politiques. Voilà, en première approximation. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Parce que si c'était une bonne nouvelle, il suffirait d'élire les filles et le problème serait réglé. Mais je pense que le problème est plus profond que ça.
Vous
Vous venez de donner la machine à vapeur et le moteur interne à combustion interne comme avatar du pouvoir qu'on a actuellement sur...
Alors, pas comme avatar, comme cause profonde de l'expansion, de l'augmentation de l'emprise matérielle, j'ai envie de dire, de l'humanité sur son environnement.
D'accord. Et est-ce que vous diriez que l'informatique et les grands moyens numériques qui se développent à l'heure actuelle sont de nouveaux avatars de ce type et de nouvelles incarnations de ce type ?
Alors globalement, c'est des techniques qui mettent de l'huile dans les rouages et donc qui contribuent aussi à augmenter l'empreinte de l'humanité sur son environnement. Alors ça le fait à double titre. Ça le fait d'abord parce que le système lui-même est matériel. Pour faire ce genre de truc, il faut des métaux, du plastique, de la pétrochimie, etc. Et puis ensuite, parce que le système digital aujourd'hui est un accélérateur de flux d'une façon générale. On peut faire un petit raisonnement par l'absurde qui le montre. Imaginons que demain matin, le système digital disparaisse. Ça plouf, un coup de baguette magique, je fais disparaître le système digital. Vous n'avez plus de banque, vous n'avez plus de communication, vous n'avez plus absolument les moyens de gérer toute la production, fait appel à de l'informatique de production dans toutes les usines, quelles qu'elles soient. Il n'y a plus de comptabilité. Il est impossible aujourd'hui de tenir la comptabilité d'une entreprise papier-crayon avec la quantité de transactions qui existent. C'est juste totalement impossible. Vous voyez bien que ça mettrait un énorme coup de frein au système économique. Donc ce petit raisonnement par l'absurde tout bête vous montre que le digital est globalement un inducteur d'émissions parce que c'est d'une énorme burette d'huile qui vient permettre à tous les engrenages du système socio-technique, comme on dit classiquement planétaire, de tourner plus vite. Voilà. Pareil, sans informatique, on n'aurait pas les mouvements aériens qu'on aurait aujourd'hui, on n'aurait pas. Enfin, voilà, tous ces trucs-là ne pourraient pas exister.
Maintenant, une question vraiment très centrée sur l'énergie. Selon vous, doit-on limiter la place centrale de l'énergie dans le débat climatique ? Si oui, comment et par quel levier ? Et au profit de quel autre sujet ?
Alors l'énergie, quand on regarde sa part dans le débat climatique, c'est à peu près le dioxyde de carbone issu de l'utilisation de l'énergie, c'est à peu près 55% des émissions planétaires de gaz à effet de serre. Et si on rajoute les émissions de méthane dues à l'utilisation de l'énergie, on arrive à peu près à 60%. Alors pourquoi est-ce qu'il faut rajouter des émissions de méthane ? Parce que vous avez du méthane, vous normalement à l'agro, là vous savez à peu près comment se forment les combustibles fossiles normalement. Si vous ne le savez pas, il faut réviser vos cours d'urgence. Et donc, au moment où le charbon se forme, il y a du méthane qui se forme également emprisonné à l'intérieur du charbon, absorbé dans le charbon. Et donc, l'exploitation du charbon désorbe, libère du méthane. Donc, c'est une source d'émission de méthane et on ventile les mines pour éviter d'avoir des coups de grisou, qui est précisément le moment où ce méthane forme un mélange détonant avec l'air ambiant et les mineurs n'aiment pas les coups de grisou et on les comprend. Vous avez également du gaz, enfin du méthane qui est dissous dans le pétrole quand on extrait du pétrole. Pareil, c'est lié au processus de formation du pétrole. Et une partie de ce méthane s'échappe dans l'atmosphère au moment où on extrait le pétrole. Alors il y a des exploitations pétrolières où on le torche, c'est-à-dire qu'on le récupère, on le brûle. Il y a des exploitations pétrolières où on le récupère et on le réinjecte dans le sous-sol pour augmenter la pression dans le réservoir de pétrole et faire sortir plus de pétrole. Mais il y a des endroits où on le laisse s'échapper. Et enfin, vous avez des fuites de gaz qui sont liées à l'extraction du gaz lui-même, donc dans les gisements de gaz, vous avez des fuites de gaz. Et dans la distribution du gaz, vous avez également des fuites de temps en temps. C'est pour ça que de temps en temps, vous avez un immeuble qui saute à Paris parce que le gaz a fui. Alors, toutes les fuites de gaz, heureusement, il ne faut pas sauter les immeubles, mais vous avez des fuites de gaz dans le réseau de distribution. Et ces fuites de gaz sont très très loin d'être négligeables. L'ensemble de ces fuites de méthane sont importantes. Donc, si vous mettez tout ça bout à bout, l'énergie, c'est 60% des émissions de gaz à effet de serre. Mais cette école s'occupe de 30% restantes, par exemple, puisque l'agriculture, au sens large, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Vous avez 20% dans les émissions agricoles directes, la fermentation entérique des ruminants, les émissions de méthane des rizières et les émissions de protoxyde d'azote liées à l'épandage des engrais azotés. Et puis, vous avez 10% que je considère comme étant associé à l'agriculture, qui est la déforestation. Parce que la déforestation est aujourd'hui essentiellement un processus amont de l'activité agricole. On coupe des forêts pour faire place à des champs. Donc vous voyez, et puis après vous avez un petit 10% qui sont des trucs divers, les émissions des décharges, c'est pas de l'énergie, les fuites de fluides frigorigènes, c'est pas de l'énergie, enfin bon, bref. La calcination du calcaire dans les cimenteries, c'est pas de l'énergie. Bon. Donc tout mouillé, l'énergie c'est 60%. Alors est-ce qu'on peut ne s'occuper que de 60% d'un problème vu la taille du problème ? Non. Est-ce qu'on peut ne pas s'occuper de 60%? À l'évidence, non plus. Voilà. Est-ce que l'énergie, c'est la totalité du débat climatique? La réponse est doublement non. Donc non, parce que ça n'est entre guillemets que 60%, même si c'est un gros paquet. Et non, pour une deuxième raison, c'est que de plus en plus maintenant dans le débat climatique, il y a un sujet qui monte, qu'on appelle l'adaptation, qui est un terme que je trouve un peu impropre, parce qu'on ne va pas s'adapter à tout. Voilà. Je ne sais pas si on s'adapte à sa propre mort, par exemple. Donc de temps en temps, vous avez des transitions qui sont suffisamment brutales pour que derrière, on ait une perte et pas la possibilité de remettre le système en l'état. Donc, je ne sais pas ce qu'on appelle exactement adaptation dans ce genre de cas de figure. Mais il va y avoir un vrai sujet qui est comment est-ce qu'on maintient au mieux la stabilité des sociétés et une relative abondance dans un monde dans lequel le climat va beaucoup changer. Et ça, c'est pas un sujet. Alors, c'est lié à l'énergie, parce que l'énergie a la capacité de s'adapter à tout. C'est beaucoup plus facile de s'adapter au réchauffement climatique, aux conséquences du réchauffement climatique. Plus facile de construire des digues si on a toujours des cimenteries et des tractopelles. C'est plus facile de nourrir les gens si on a toujours plein de camions pour faire venir la nourriture de là où ça pousse encore vers là où ça pousse plus, etc. Donc l'énergie permet de s'adapter à tout. Enfin, permet de s'adapter à beaucoup de choses. Donc il y a un lien de ce point de vue, mais ce n'est plus un lien émission, c'est un lien dépendance. Et puis, il y a la partie agricole, qui est une partie, donc on va parler plus tard, donc, qui est une partie centrale dans les émissions, et également une partie centrale dans la question de la vulnérabilité. Parce que si on ne mange plus, s'occuper du reste devient un problème discutable.
Et donc, s'il devait y avoir un autre sujet à mettre sur le devant de la scène afin d'aborder ce problème de vulnérabilité et les enjeux de transition, d'adaptation, lequel devrait être choisi selon vous?
Tous. Tous, parce que quand on regarde en fait la civilisation actuelle, elle est née de la conjonction de deux facteurs. Elle est née d'une part de 10 000 ans de stabilité climatique, qui a permis la sédentarisation de l'espèce humaine, le développement de l'agriculture et le développement des sociétés urbaines sédentaires que nous connaissons aujourd'hui. Ça, c'est l'héritier lointain de la stabilisation du climat. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers des grands cycles climatiques qu'on a connus à l'ère quaternaire, donc sur les 3 derniers millions d'années, mais vous faites un peu de géologie dans cette école normalement aussi, vous devez vous rappeler qu'il y a 20 000 ans, nous avons quitté la dernière ère glaciaire, donc un moment où la température moyenne de la planète était beaucoup plus basse pour des raisons astronomiques, hein, c'est pour ça qu'elle était beaucoup plus basse, et en l'espace de 10 000 ans, la moyenne planétaire s'est réchauffée d'à peu près 4 degrés, c'est ça la déglaciation, toujours pour des raisons astronomiques. Donc on a eu une transition climatique qui était pour les capacités d'adaptation des sociétés humaines nomades de l'époque rapide, et on ne pouvait pas s'installer quelque part, parce que quelques siècles après, 500 ans après, il aurait fallu totalement tout chambouler, les habitats, les espèces cultivées, etc. Donc à cette époque-là, les sociétés humaines sont restées nomades. Et il a fallu attendre la stabilisation du climat il y a 10 000 ans, parce que sur les 10 000 dernières années, avant le réchauffement actuel, la moyenne planétaire avait varié d'une fraction de degré seulement, hein, très peu. Il a fallu attendre cette stabilisation pour que s'installent les sociétés sédentaires, avec plus ou moins de succès en fonction des espèces sauvages qui étaient cultivées, enfin, qui ont pu donner lieu à des espèces cultivées. Il y a un excellent bouquin de Jared Diamond, que je vous conseille là-dessus, de l'inégalité parmi les sociétés, qui explique très très bien comment les sociétés sont mises à prospérer en fonction des espèces végétales et animales disponibles pour la culture et la domestication. C'est passionnant ce bouquin. Et donc, nous, on est les lointains descendants de cette stabilité climatique. Donc, cette stabilité climatique, si on la perd, ça va mettre cul par-dessus tête énormément de choses qu'on considère comme étant stables aujourd'hui. Et la deuxième chose dont notre civilisation actuelle est l'héritière, c'est l'abondance énergétique. Et en fait, on commence à sortir de cette période bénie où on a eu le bénéfice du service sans la facture du service, quelque part, hein. Ça a été la fête du slip, mais on n'a rien eu à payer. Donc là, on commence à rentrer dans la période difficile où on va devoir à la fois payer la facture de la fête passée et avoir un peu moins d'abondance et de moins en moins d'abondance au niveau des ressources. Alors c'est systémique cette affaire-là, parce que quand on regarde bien, c'est ce qu'on essaye d'expliquer dans cette excellente BD qui s'appelle « Le monde sans fin », dont je vous rappelle que les excellents dessins ne sont pas de moi, parce qu'il faut être deux pour faire une BD, c'est quelqu'un qui sache dessiner, ce qui n'est pas mon cas, enfin dessiner à peu près correctement, c'est que, en fait, cette stabilité climatique doublée de cette abondance énergétique explique le système des retraites, les études longues, les 35 heures, la tertiarisation de l'activité, l'égalisation homme-femme, l'urbanisation, la mondialisation, enfin tout y passe, hein, quand vous regardez bien. Donc est-ce qu'il y a un sujet à mettre plus particulièrement en avant? Non, et c'est bien la difficulté. La difficulté, c'est que nous, on est en général habitués à raisonner avec des priorités, toutes choses égales par ailleurs. D'accord ? Par exemple, vos priorités, enfin, ou vos plans de vie, s'inscrivent quand même globalement dans un monde dans lequel c'est toutes choses égales par ailleurs. On va rester en démocratie, votre diplôme vaudra quand même plus cher que celui de quelqu'un qui a fait un CAP de boulangerie, etc. Enfin, vous allez... Ce qui n'est pas un jugement de valeur, c'est juste une réalité économique. Donc vous raisonnez dans ce, comme moi. Hein, or, tout va changer en même temps. Voilà. Et donc, dans un monde dans lequel tout, ce n'est pas toute chose égale par ailleurs, c'est toute chose changeant par ailleurs, c'est très difficile de dire, ben là, il y a telle priorité et telle priorité, puis le reste, dans un premier temps, ce n'est pas la peine de vous en occuper. C'est bien toute la difficulté du sujet. Et c'est bien l'une des raisons pour lesquelles il y a tant de gens qui se disent, bon, demain, il fera jour, je vais attendre après-demain pour m'en occuper. Parce que ça a un côté très désagréable de se dire qu'on va devoir s'occuper de tout en même temps.
Et est-ce que certains sujets comme la biodiversité, etc., qui resteraient en quelque sorte des constantes dans un équilibre planétaire, ne seraient pas d'intérêt justement pour que nous, humains, nous puissions garder quelque chose d'un peu constant, ou en tout cas qui restera après nous comme repère dans ces changements-ci ?
Alors, intellectuellement, si, et en pratique, c'est là que ça devient beaucoup plus difficile. Le climat, il a la particularité d'offrir un dossier qui est désagréable pour la psychologie, mais simple pour l'action pratique. Il est simple pour l'action pratique à cause de ses caractéristiques physiques. Et la caractéristique physique principale qui le rend simple, c'est que les gaz à effet de serre sont des gaz à très longue durée de résidence dans l'atmosphère, parce que c'est des espèces chimiquement stables. Et comme c'est des espèces chimiquement stables à très longue durée de résidence dans l'atmosphère, le lieu d'émission n'a pas d'importance. Et donc vous avez une monnaie fongible. C'est-à-dire que vous pouvez additionner, c'est légitime d'additionner pour le vêtement que vous portez, les émissions d'extraction du pétrole, les émissions de la raffinerie qui a raffiné le pétrole, les émissions du vapocracker qui a commencé à faire des monomères, les émissions de l'usine plastique qui a fait les polymères, plus les émissions de l'endroit où on a tissé la fourrure polaire, là, avec, etc., plus les émissions du camion qui l'ont transporté jusqu'au magasin, plus les émissions de fabrication du carton, parce qu'évidemment vous l'avez acheté sur Amazon, mais ne le dites à personne, etc. Donc c'est légitime de faire tout ça, parce que toutes ces émissions produisent le même effet in fine dans une atmosphère dont le temps de brassage interhémisphérique est de l'ordre de l'année, alors que le temps de résidence des gaz à effet de serre dans l'atmosphère se compte en décennies, en siècles ou en millénaires. D'accord ? C'est légitime. Mais pour la perte de biodiversité, comment est-ce que je peux additionner les trois dauphins qui ont été zigouillés au moment où on a posé la plateforme pétrolière, plus les espèces d'orchidées qu'on a supprimées au moment où on a construit la raffinerie, plus les espèces de je ne sais pas quoi qu'on a détruites au moment où on a construit le vapocracker, plus... Voilà. Donc la tonne équivalent grenouille jaune, aujourd'hui, elle n'existe pas vraiment. Et c'est un des sujets qu'on a à Carbone 4 quand on veut s'occuper de ce truc-là avec nos clients. Et par ailleurs, il n'y a pas de seuil de danger clairement identifié, alors que dans le domaine climatique, il y en a. C'est-à-dire qu'on est capable de vous dire, par exemple, le pourtour du bassin méditerranéen, ça séchera de 10% par degré supplémentaire de réchauffement. Donc vos anciens sont capables de faire tourner des très beaux modèles agronomiques en disant, ben voilà, à partir de telle élévation globale de température, on court le risque d'avoir en moyenne X% de blé en moins, X% de maïs en moins, etc. Peut-être qu'on devrait éviter d'aller s'aventurer dans tel truc qu'on voit comme étant une zone rouge. Surtout que quand on voit le temps passer, on se rend compte que toutes ces estimations sont toujours globalement minimalistes et minimisent le risque. Bon. Pardon pour la répétition. Donc, vous avez un dossier scientifique très bien documenté, avec des seuils de danger raisonnablement identifiés, et on en a déduit un objectif politique, parce que les 2 degrés de réchauffement auxquels il faut se limiter, c'est un objectif politique. La science ne vous dit pas à 1,9 c'est tranquillou, et à 2,1 c'est sabarde. Non, c'est pas comme ça que ça se présente, mais on a quand même un objectif politique. Bon, on sait qu'à 2 degrés, il faut baisser les émissions de 5% par an, enfin, on sait hein, tout un tas de trucs quantifiés. Donc on peut passer à l'action, ou plus exactement, on peut imaginer passer à l'action, on peut commencer à faire des plans, etc. Alors c'est difficile pour plein de raisons, mais sur la biodiversité, on ne sait pas si c'est ennuyeux sur le plan du bien-être de l'espèce humaine de perdre 5%, 10%, 20%, 30%. Est-ce que c'est très emmerdant si on perd 30% des moustiques et 0% des ours, ou plus emmerdant si on perd 30% des ours et 0% des moustiques? Enfin bon, donc c'est... Et il faut additionner les ours et les moustiques en tonnes équivalent grenouille jaune, comme je disais tout à l'heure. C'est un truc... Voilà. Donc c'est très difficile pour la biodiversité, déjà de s'extraire d'une vision anthropocentrée, parce qu'à titre personnel, enfin je ne sais pas si je préfère les ours ou les moustiques, du reste parce que l'ours blanc il croque autant que le moustique, mais donc c'est très difficile de s'éloigner d'une vision anthropocentrée, les gens, la préservation de la biodiversité des moustiques, en général les gens ont moins envie, hein. Et puis, c'est très difficile de définir des seuils, et c'est très difficile d'en faire autre chose qu'une juxtaposition de problèmes locaux. D'accord ? C'est parce que l'érosion de la biodiversité dans l'Amazonie, moi, je ne sais pas si ça changerait grand-chose, au fond, à la manière dont les Français vivent. Je ne sais pas. Je ne dis pas que ce n'est pas grave. Je dis juste, je ne sais pas. Donc, c'est un dossier qui est beaucoup plus difficile à appréhender, tout simplement parce que la base scientifique de l'affaire et la base méthodologique qui permettrait aux acteurs de passer à l'action, les particuliers, les entreprises, les États, etc., elle est aujourd'hui plus embryonnaire, plus émergente. Plus, voilà, c'est un dossier qui est donc plus difficile.
Merci. Vous venez de parler du fait que le carbone pourrait être considéré comme une monnaie étant donné qu'elle est pérenne. Ça tombe bien vu qu'on va parler d'économie. Dans l'une de vos interventions, vous présentez, et dans beaucoup de vos interventions d'ailleurs, vous présentez cette fameuse régression linéaire entre le PIB des États et des nations et leur parc énergétique. Et vous appuyez souvent ce graphique en disant que monnaie et énergie seraient intervertibles. Or, l'énergie suit les lois de la thermodynamique et les monnaies suivent les mécanismes économiques. Est-ce que ces mécanismes économiques pourraient être similaires aux lois de la thermodynamique ? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'impliquerait une économie réellement thermodynamique ?
J'ai 2 heures et vous ramassez les copies, non ? Alors, la régression que je montre, en fait, est pour moi un lien causal. Elle est un lien causal. Alors, effectivement, quand vous observez la courbe, vous constatez qu'il y a une régression à peu près parfaitement linéaire entre l'énergie utilisée dans le monde et le PIB mondial. Et c'est bien à l'échelle mondiale que ce graphique est pertinent, parce que quand vous regardez un pays pris isolément, sa valeur ajoutée peut dépendre de flux physiques, donc des consommations énergétiques, situées hors des frontières. Ce qui veut dire que vous n'avez pas d'homogénéité entre l'assiette pour la valeur ajoutée et l'assiette pour les flux physiques, donc énergétiques. Par contre, le monde ne commerçant pas avec Mars, au grand dam d'Elon Musk, là, vous avez les mêmes frontières, si vous regardez la production économique mondiale et l'utilisation d'énergie dans le monde. Alors, qu'est-ce que c'est que l'utilisation de l'énergie ? En fait, c'est le fait de faire fonctionner une machine à notre profit. C'est ça, l'utilisation de l'énergie, c'est rien d'autre que ça. L'électricité, dans ce bâtiment, ne sert à rien d'autre qu'à alimenter des machines. Elle ne sert pas à vous alimenter, vous. En général, il y a des tas de mécanismes pour vous empêcher de mettre les doigts dans la prise, et heureusement. De même que le pétrole ne sert qu'à alimenter des machines, le charbon ne sert qu'à alimenter des machines, etc. Donc, quand on regarde l'utilisation de l'énergie dans un pays, en fait, on regarde le parc de machines du pays. C'est ça qu'on regarde. Et ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, l'économie étant, la production étant faite par des machines, c'est des machines qui ont fait les fauteuils de cette salle, qui ont fait les vêtements que vous portez, les lunettes que vous portez, les engins de transport, que ce soit des vélos, des voitures ou le métro qui vous ont amené ici, le micro dans lequel je parle, la table, etc. Tout ça, c'est des machines qui l'ont fabriqué. Donc la production économique, et c'est vrai même dans les services. Un salon de coiffure, c'est des machines. Des tondeuses, des casques séchoirs, la pompe qui permet à l'eau d'arriver, la chaudière pour que vous ayez de l'eau chaude et pas l'eau froide. Est-ce que l'eau soit chaude ou froide, le coiffeur vous dit toujours est-ce que c'est la bonne température. Donc tout ça, c'est des machines. Et donc la production économique étant assurée par des machines, ce n'est pas étonnant qu'on se retrouve avec une régression parfaitement linéaire entre la production économique mondiale, dite en valeur, donc c'est normalement corrigé de l'inflation, hein, la monnaie n'intervient plus, et la quantité d'énergie, c'est-à-dire le parc de machines en service. Voilà, c'est parfaitement. Alors, ça change un tout petit peu au fil des années parce qu'il y a un peu d'efficacité énergétique dans les machines, dans la production, mais pas tant, parce que très vite, vous allez tomber sur des asymptotes parce qu'il y a des barrières au rendement physique un peu partout, quoi. Voilà, donc c'est ça le sujet. Alors, dans cette histoire, est-ce que la monnaie suit ses propres règles ? Oui, bien sûr. La monnaie peut se créer aujourd'hui en appuyant sur retour chariot sur un clavier d'ordinateur. D'accord ? À chaque fois qu'une banque vous accorde un crédit, ce qui en pratique est une opération informatique, elle crée de la monnaie, banque commerciale. Hein. Savoir que la monnaie est essentiellement créée par les banques commerciales, c'est elle qui crée la monnaie, à chaque fois qu'elle vous accorde des crédits. Donc elle a effectivement son existence propre. Mais le passage entre le PIB et la monnaie n'est pas automatique, parce que vous avez une opération au passage, pour la répétition du mot, qui s'appelle la correction de l'inflation. C'est-à-dire que si d'une année sur l'autre, le prix d'un fauteuil augmente de 20%, alors que c'est toujours le même fauteuil, l'INSEE ne va pas vous compter une augmentation de la valeur produite de 20%, il va vous dire c'est toujours la même, on va faire une correction de l'inflation qui consiste à prendre le prix de vente et à enlever 20%. C'est comme ça que ça se passe. Donc le fait de créer de la monnaie ne crée pas nécessairement de la production derrière. D'accord ? La production, elle est observée en tant que telle, en comptant des stylos, des... Alors, aujourd'hui, en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe, malheureusement, parce que vous avez à peu près 1 milliard de produits disponibles à la consommation finale dans les pays occidentaux dans lesquels nous vivons. Et j'avais fait un petit calcul d'ordre de grandeur, un truc que j'adore faire. À l'INSEE en France, vous avez 10 personnes pour s'occuper de la correction de l'inflation. Alors, vous pouvez faire une petite règle de 3. Il y a 8760 heures dans une année, 3600 secondes dans une heure, donc vous regardez, et 10 personnes pour corriger de l'inflation, donc vous regardez la quantité de secondes que ces gens ont à leur disposition, à supposer qu'ils ne dorment pas, qu'ils ne mangent pas, qu'ils n'aillent pas aux soirées de l'agro, enfin ils font rien. Quoi. Donc 8760 fois 3600 fois 10, c'est la quantité de secondes que vous avez, et vous divisez, cette quantité de secondes par 1 milliard, qui est la quantité de produits disponibles à la consommation finale, et ça vous donne le temps par personne pour faire la correction de l'inflation. Et vous arrivez à une fraction de seconde. J'ai fait le calcul. Donc c'est évident que ce n'est pas fait dans les règles de l'art. Voilà. Donc aujourd'hui, la correction de l'inflation dans le calcul du PIB, elle est faite avec des estimations. Et à mon avis, ces estimations conduisent, je ne suis pas le seul à dire ça, surestimer le PIB. D'accord ? Aujourd'hui, on surestime. Quand on regarde la manière dont les gens vivent vraiment, et les indicateurs physiques qui permettent de mesurer la manière dont les gens vivent vraiment, en fait, vous vous rendez compte, par exemple, qu'en France, facialement, le PIB est censé augmenter sur les 15 dernières années, et en pratique, je pense qu'il baisse déjà. Alors, vous ne vous en rendez pas compte, et moi non plus, parce que vous êtes du bon côté de la barrière, parce que par ailleurs, les inégalités augmentent aussi. Voilà. Donc, la conjonction de la baisse du PIB réel en France et de l'augmentation des inégalités fait que vous, vous en sortez bien, et moi aussi. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. La personne qui va venir faire le ménage à 6h du matin ici, ce n'est pas son cas.
Je vais vous poser une question un peu agro, même si on reste sur le thème de l'énergie. Depuis Colbert, il y a un principe central dans l'exploitation forestière qui est qu'on n'extrait jamais plus que ce que la forêt est capable de produire. Est-ce que vous pensez que ce principe pourrait être transposé aux extractions de pétrole et de gaz naturel ?
À ce moment, on n'extrait rien. il faut entre quelques dizaines et quelques centaines de millions d'années pour que le pétrole, le gaz et le charbon se forment. Donc si on adoptait ce principe, eh bien chaque année, on pourrait extraire 1/300 millionième des combustibles fossiles sous terre, alors qu'on est plutôt aux alentours d'une fraction de pourcent. D'accord. Donc on va 1 million de fois plus vite que le rythme de renouvellement. Voilà, donc aujourd'hui, la planète consomme 80 millions de barils, en pétrole, on est un peu plus de 80 millions de barils jour. Donc si on adaptait le principe de Colbert, on pourrait consommer 80 barils par jour. Pour la planète dans son ensemble, pas par personne. Voilà. Donc oui, on pourrait le faire, c'est pas vraiment le monde dans lequel on vivrait. En ce qui concerne la forêt, je vais faire une incise. Il se trouve qu'à Carbone 4, on a fait une très très grosse étude pour France Bois Forêt, il n'y a pas longtemps, sur justement la situation actuelle de la filière et son devenir. Et en fait, le principe de Colbert, il va se trouver un peu chamboulé par l'augmentation très forte pressentie de ce qu'on appelle le bois de crise. Je ne sais pas si ça vous dit, si ça vous parle. Donc en fait, le bois qui meurt prématurément à cause des tempêtes, des scolytes, ou dont on sait qu'il va mourir, des tempêtes, des scolytes, du stress hydrique, etc. Il faut savoir que même à climat constant, c'est-à-dire même si aujourd'hui on arrêtait le réchauffement climatique, vous avez une partie des arbres en France qui sont déjà en train de mourir. Les arbres qui sont partie des épicéas, une partie des hêtres, etc. Et dans un scénario à 2 degrés, vous avez quelques dizaines de pourcents de la forêt qui vont mourir de toute façon. Donc la question c'est que ce bois-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on attend qu'il meure et on le laisse mourir en forêt ? Est-ce qu'on n'attend pas qu'il meure et on le tronçonne et on constitue des stocks monstrueux qu'on ne va pas avoir la possibilité d'absorber parce que l'appareil industriel, on ne va pas le dimensionner pour qu'il absorbe ses bois de crise pendant 5 ans, puis après, on n'en fait plus rien. Enfin voilà, donc là, il y a un problème un peu existentiel. Et par ailleurs, le renouvellement de la forêt pour planter des espèces qui vont mieux résister et qui incidemment croîtront plus lentement, parce que dans un climat plus sec, on ne fait pas de miracle. La biomasse pousse plus lentement. Voilà. Si on décide de remplacer les chênes pédonculés par des chênes lièges ou par des chênes verts, on n'aura pas vraiment la même industrie forestière derrière. Et même si on continue à planter des pins qui résistent bien à la sécheresse, s'il fait sec, ils vont quand même pousser plus lentement. Donc, il y a un vrai sujet dans cette affaire, avec pour le moment besoin d'un peu de jus de cerveau. Donc, s'il y a des gens ici qui sont intéressés pour aller dans la filière forestière, il va y avoir du boulot, même si aujourd'hui, c'est une filière qui crie un peu misère. Ce qui est, à mon avis, une mauvaise... Je parlais tout à l'heure de la gestion des priorités, ce qui est une mauvaise gestion des priorités. Je pense qu'il faudrait un peu plus d'argent dans la forêt et un peu moins dans l'intelligence artificielle. Voilà, cet avis n'engage que moi.
Donc on a encore le temps pour une ou deux questions de type interview avant de passer aux questions du public. Je vais revenir encore une fois sur vos dires lors d'une de vos interventions. Vous donnez comme facteur important de changement climatique futur la volonté des pays en développement de vivre un jour et de consommer un jour comme les pays développés. Si tel est le cas, comment nous, en tant que citoyens de pays développés, pouvons-nous nous faire efficacement les apôtres de la bonne consommation et comment doit-on communiquer à l'étranger, sur la bonne consommation et avons-nous donc plus de responsabilités sur les bonnes manières d'aborder le sujet?
D'accord. Alors, je vais faire une réponse en deux temps. Ma première réponse va consister à vous expliquer pourquoi la croissance verte, ça n'existera pas. Et ensuite, je vous donnerai quelques indications pratiques. Alors, pour vous expliquer pourquoi la croissance verte, ça n'existera pas, je vais m'appuyer sur le deuxième principe de la thermodynamique. C'est bon ? Alors, le deuxième principe de la thermodynamique vous dit que si, au sein de l'univers, vous créez un système ordonné, ça veut dire qu'en dehors de ce système ordonné, vous êtes condamné à augmenter l'entropie. D'accord ? Puisque l'entropie, globalement, ne peut qu'augmenter au cours du temps. Si vous la diminuez au sein d'un système en organisant le système, parce qu'organiser un système, c'est diminuer son entropie, eh bien, fatalement, à l'extérieur, vous augmentez l'entropie. Donc, qu'est-ce que c'est que la croissance économique ? C'est augmenter la taille du système organisé créé par et pour les hommes, puisque ce bâtiment, par exemple, c'est un système plus organisé que les minerais dont il est issu, les carrières dont il est issu. Vos vêtements, c'est un système plus organisé que le gaz carbonique et l'eau qui ont permis au coton de faire les fibres, ce qu'on trouve dans l'environnement, ou le pétrole brut qu'on a trouvé sous terre, etc. Donc en fait, si on fait de la croissance au sens où on augmente le système organisé dans lequel nous vivons, plus de maisons, plus de voitures, plus d'avions, plus de machines à laver, plus de McDonald's, non, j'ai rien dit, plus d'écrans de télévision, etc., fatalement, ça veut dire qu'à l'extérieur de ce système, on excrète de l'entropie. Cette entropie, c'est du désordre. Alors le désordre, c'est quoi ? C'est de la pollution et des inconvénients divers. Alors cette entropie, on pourrait imaginer que la Terre soit capable de l'évacuer, mais sauf que la Terre, elle n'a qu'une seule façon d'évacuer son entropie, c'est de rayonner de l'infrarouge de grande longueur d'onde, versus le rayonnement de plus courte longueur d'onde, donc avec une entropie un peu plus basse, qu'elle reçoit du Soleil. Aujourd'hui, l'activité des hommes, enfin des êtres humains, est devenue tellement importante qu'en fait, le surplus d'entropie qu'on met dans l'environnement, il n'est pas capable d'être évacué par la planète Terre sous forme d'infrarouge de grande longueur d'onde, sinon on n'aurait pas de désordres environnementaux, on n'aurait pas de réchauffement climatique, par exemple, on n'aurait pas ce genre de trucs. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on cherche à faire croître le système organisé dans lequel il y a les pays développés et les pays en développement, le deuxième principe de la thermodynamique vous dit que fatalement, on augmente la quantité de bordel à l'extérieur du système organisé, on ne peut pas faire autrement. Donc il ne peut pas y avoir de croissance verte. C'est thermodynamiquement impossible. Ce qu'on peut essayer de faire, donc, c'est du partage. Et fatalement, il va y avoir de la contraction de notre côté. Donc maintenant, une fois que je vous ai dit ça, la portée pratique de mon raisonnement, c'est quoi ? C'est, un, vous ne pouvez pas dire aux gens qui fument 2 cigarettes par jour, alors vous en fumez 20, vous savez, vous ne devriez pas fumer. Donc c'est évident que la vertu du mimétisme, enfin, le fait que les hommes soient des animaux sociaux mimétiques, ça c'est une donnée biologique quelque part, hein, fait que tant que nous on se comporte comme on se comporte, c'est juste on pisse dans un violon si on va expliquer à des gens qui consomment 10 fois moins que nous qu'il ne faudrait surtout pas qu'ils s'y mettent. Ça n'a pas de sens. Donc c'est à nous de donner l'exemple, et quand je dis nous, c'est nous les sociétés opulentes mondiales. Alors dans les sociétés opulentes mondiales, qu'est-ce que je mets ? Je mets certes l'Europe, mais je mets aussi les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, la Chine, parce qu'aujourd'hui la Chine, il faut bien voir que c'est sur un peu plus d'un milliard d'individus, 400 millions d'Américains et 600 millions d'Indiens, hein, si je la fais courte. Hein. Donc la Chine est déjà du côté des gens qui aujourd'hui doivent commencer, pour une bonne partie de la population, aussi à faire des efforts. On n'est pas dans les... Voilà. Et de l'autre côté, vous avez une large partie de l'Afrique, une bonne partie de l'Asie, l'Inde notamment, une partie de l'Asie du Sud-Est, etc. Bon, donc vous avez, bon, et cette affaire-là, moi je me mets à la place d'un Philippin ou je me mets à la place d'un Indien, je regarde les Français, je leur dis, bon, ça a l'air sympa quand même d'avoir la télé chez soi, d'avoir le chauffage central, enfin eux ils n'ont pas besoin de chauffage central dans toute l'Inde, mais dans certains pays, oui, d'avoir un moyen de transport pour se déplacer, d'avoir, etc., ça a l'air quand même plutôt sympa. Au nom de quoi vous leur diriez, ben non, pas touche, alors que nous on le garde. De toute façon, vous pouvez leur dire, ça ne change rien. On ne va pas leur envoyer des missiles balistiques, parce que bon. Donc, déjà qu'on n'en a pas affilé aux Ukrainiens. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, la seule chose sur laquelle on puisse compter, c'est le mimétisme. Et le mimétisme, c'est de commencer, nous, à nous organiser avec moi. C'est la seule chose qui puisse fonctionner. Ce qui ne veut pas dire qu'on soit des enfants de cœur. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se fasse marcher sur les pieds, ça va, etc. Mais juste, on est forcé de s'organiser avec moi. Et la deuxième chose qu'on peut faire, si on veut accélérer le mouvement, c'est de donner, et je dis bien donner, un certain nombre de technologies décarbonantes permettant directement à ces pays d'accéder à un minimum, le mot minimum étant très difficile à définir, de possession matérielle, on va dire, sans, malgré le deuxième principe de la thermo, trop fiche le pastis à l'extérieur. D'accord ? Voilà. Et il va bien s'agir de partage, quelque part. Alors, le partage, aujourd'hui, il n'est pas donné d'avance. Il faut savoir que l'aide au développement française, c'est une fraction de pourcent. Pas complètement sûr qu'aujourd'hui, les Français soient globalement prêts à ce que 20% de leurs impôts, plutôt que de payer des instituteurs, des infirmières et des routes, aillent permettre aux Nigérians d'acquérir des lave-vaisselles et de la climatisation bas carbone. Voilà. Mais le débat, il est là. Le débat, il est là.
Je vais vous poser une dernière question et après, on passera aux questions du public. Comment donner à toutes et à tous l'envie de lutter à son échelle ? Je vous pose la question parce que je pense qu'il y a une grande partie de la population en France qui est consciente du changement climatique, qui n'est pas forcément consciente de l'urgence, mais qui ne se sent pas du tout concernée, et qui ne pense pas que c'est une priorité pour eux de faire des efforts, que ce soit pour des questions économiques ou autres. Donc, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ?
Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est que je pense que la matière première sociologique pour, pardon d'être un tout petit peu taquin, justifier votre question, aujourd'hui, elle n'existe pas. Vous avez des sondages qui demandent aux gens « Est-ce que vous êtes prêt à faire des efforts ?» Les gens vous disent « Oui, non. » Sauf que la bonne question, ce n'est pas juste celle-là. C'est « Est-ce que vous seriez prêt à faire des efforts si les autres en font aussi ?» Ce qui n'est déjà pas la même question. Et je suis sûr qu'on n'aurait pas la même réponse. Donc, aujourd'hui, on a une partie de la matière première qui manque. Alors, pourquoi je dis « si les autres en font aussi ?» Parce que vous vous rendez compte qu'en pratique, l'action seule est un truc terriblement démotivant et qu'à peu près personne ne le fait. D'accord ? Les gens, ce qu'ils adorent, c'est l'action dans le cadre d'un collectif. Du reste, l'association qui organise les conférences ici, c'est un collectif. Mais bon. Toutes les associations qui prennent place à l'agro, c'est des collectifs. Et en fait, vous vous rendez compte que l'action, elle est beaucoup plus facile à mettre en œuvre dans le cadre d'un collectif, et les changements, c'est quand même beaucoup plus facile dans le cadre d'un collectif. C'est plus facile d'arrêter de boire quand on va aux alcooliques anonymes que quand on est tout seul devant sa bouteille. Donc, c'est pareil pour le tabac, c'est pareil. Donc, l'action qui, en ce qui concerne la consommation, inclut pour partie une forme de renoncement, il faut renoncer à des trucs qu'on avait, voir l'avantage qu'on peut avoir à changer, etc. Et dans tout ça, il y a une affaire d'émulation, de sens, d'entraide, etc., qui a beaucoup de mal à exister en dehors du collectif. C'est l'une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, on peut voir ces choses aussi étonnantes que des gens qui sont ravis d'avoir des actions collectives dans le cadre de leur boulot, ravis de savoir que, etc., et puis dans leur vie personnelle, continuent à prendre l'avion, etc., et parce qu'en fait, dans leur vie personnelle, ils sont un peu... Le collectif fait que on les incite. Le collectif prend l'avion, par exemple, et ils ont vachement de mal à se dire « moi, je vais me priver de mon cercle d'amis, ou me priver de mes habitudes, ou etc. Je vois pas ce que je gagne au change, parce qu'il n'y a rien à gagner dans un premier temps. Et donc, j'y renonce. » Donc, la clé du passage à l'action, en fait, c'est le collectif. Donc, voilà. Donc, il y a une deuxième clé, évidemment, qui est l'information. Il faut comprendre quelle est la nature du problème à traiter, pas agir. Parce qu'il n'y a rien de pire que de commencer à agir et puis de se rendre compte au bout d'un certain temps, comme disait l'autre, que ce n'est pas le bon truc qu'on a mis en route. Un peu désagréable. Donc, il y a à la fois de l'information, et le fait de trouver une structure dans laquelle l'action va pouvoir être collective. Et j'insiste, c'est vraiment un truc important parce que c'est ce qui rend l'action, c'est ce qui crée vraiment la motivation et ce qui peut rendre l'action pérenne.
On va passer aux questions du public. Donc, est-ce que vous avez des questions ?
Alors, je précise que j'ai une règle paritaire pour les questions. Et je le dois à vos petits copains de l'Institut d'agro de Rennes, je crois, où, comme dans toutes les agros, il y a deux tiers de filles. Et je me suis rendu compte, avant d'avoir mis en place cette règle, qu'à la sixième question qu'on me posait, c'était toujours un homme. Et donc, je me suis dit que j'allais mettre en place cette règle. Voilà.
Oui, bonsoir. Donc, merci de vous être déplacé jusqu'ici. C'est tout ce que c'est pas facile depuis Paris. Ma question, c'est aujourd'hui, beaucoup d'entre nous déculpabilisent de se trouver ici parce qu'on est persuadé de pouvoir intégrer des postes à haute responsabilité au sein d'entreprises publiques ou de l'administration française. J'ai encore lu récemment que plus de 60% des PDG du CAC 40 étaient issus de grandes écoles. Je voulais savoir ce que vous pensiez de cet argument et sinon, que pensiez-vous du fait de bifurquer comme ont pu le faire certains de nos camarades il y a quelques années ? Merci.
Alors, je pense que la bifurcation aujourd'hui est quelque chose qui n'a pas de définition normative. Je ne sais pas ce que c'est que bifurquer. Parce que si vous allez élever des brebis dans le Larzac, mais que vous gardez un téléphone portable, vous n'avez rien bifurqué du tout. Sauf à ce que vous ne mangiez que vos brebis, vous ne buviez que le lait de vos brebis et que vous ne vous habilliez que de la laine de vos brebis, vous êtes dans la mondialisation comme tout le monde. Déjà, il ne faut pas porter de lunettes, parce que sinon vous êtes dans la mondialisation. Bah oui, vos lunettes. Je suis désolé, vos branches de lunettes, c'est ou de l'acier qui ne vient pas de France, parce qu'il n'y a plus de mine de fer en France, et le charbon métallurgique ne vient pas de France, ou des résines, c'est-à-dire des produits de la pétrochimie. Le pétrole, c'est tout à fait mondialisé, il n'y a pas plus mondialisé que le pétrole. Donc quelque part, je vais me mettre en dehors du système. C'est juste impossible aujourd'hui. Tout le monde est dedans. C'est juste pas possible. Alors, on peut avoir envie de le changer tout en étant dedans, avoir envie de le changer en étant à l'extérieur. Personnellement, je pense que les deux s'appuient. Quand on regarde ce qui fait bouger des organisations, il faut à la fois des emmerdeurs de l'extérieur, qui les conspuent publiquement, leur font des procès, etc. Mais il leur faut des alliés de l'intérieur. Donc il faut les deux à la fois. Donc il faut à la fois du Greenpeace et du Carbone 4, si je dis les choses comme ça. Et il faut bien que ces rôles soient séparés du reste. Parce que le jour où vous voulez passer à l'action, c'est pas Greenpeace qui va vous dire quoi faire. Inversement, Carbone 4 va pas trop botter le cul de ses clients, parce que ça reste quand même ses clients. Donc c'est important qu'il y ait d'autres qui se chargent de le faire. Donc c'est bien qu'il y ait ces deux rôles-là. Les deux sont importants. Et par ailleurs, dire « je me mets en dehors du système aujourd'hui », c'est juste physiquement impossible. Ça n'est pas possible. Alors, la question que vous posez, qui est la question du sens, c'est où est-ce que je peux agir avec quelque chose qui fait sens. Alors d'abord, moi je trouve que c'est une très bonne chose de garder, parce que ça va une fois que vous serez sorti de l'école, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous vont être capturés, parce qu'il faut tenir dans la durée. Je me suis fait houspiller par les gens de L'Oréal parce que lors d'une intervention à HEC il n'y a pas longtemps, j'avais choisi cette entreprise comme exemple devant vos camarades d'HEC, en leur disant « si vous rentrez chez L'Oréal, vous ne ferez pas la révolution. Jeune cadre chez L'Oréal, vous ferez ce que L'Oréal fait et vous ne ferez rien d'autre, parce que quand vous rentrez jeune cadre, etc. » Donc si vous rentrez jeune cadre chez Danone ou chez Arvalis ou chez pourquoi, bah, vous ferez le métier de Danone ou d'Arvalis, parce que c'est exactement ça et vous ne ferez pas la révolution. Et donc si vous rentrez dans une grande boîte pour la changer de l'intérieur, il faut être capable de tenir. C'est-à-dire qu'il faut être capable pendant 5 ou 10 ans d'apprendre le métier, de faire un peu de Duguay-Clin, là, d'apprendre le métier, mais de rester planqué dans votre charrette de foin pour le jour où vous aurez envie d'en sortir, comme Zébulon de sa boîte, là, et en disant « Coucou, maintenant, on va tout changer. » C'est pas simple. C'est pas simple parce que vous allez être capturé par votre salaire, capturé par le... etc. C'est pas simple. Vous pouvez rentrer dans la fonction publique, mais vous allez avoir le même problème. Parce que dans la fonction publique, vous êtes aux ordres du politique. Le politique, ces 15 dernières années, c'est pas particulièrement distingué par sa clairvoyance et sa capacité à faire des plans cohérents et suivis dans la durée. Quelle que soit sa couleur politique. Hein. C'est pas une bonne nouvelle, hein, mais malheureusement, c'est une réalité. Donc, quand vous rentrez dans la fonction publique, là aussi, il faut être capable de tenir. C'est-à-dire que, de temps en temps, il faut être capable d'avaler des couleuvres qui, parfois, se rapprochent de boa constrictor et de garder votre foi intacte jusqu'au jour où elle va servir à quelque chose. C'est pas nécessairement simple. Vous pouvez, enfin... rentrer dans des structures qui sont des structures plus petites, où vous aurez plus de liberté de mouvement, mais moins d'impact à court terme, parce que la petite structure, bah, elle est petite, et donc elle ne régit pas le monde. Il y a zéro système parfait, d'accord ? Donc il n'y a pas de martingale, malheureusement, et il faut vivre avec. Et par ailleurs, il y a une chose dont il faut absolument vous départir, alors ça c'est essentiel pour les jeunes que vous êtes, il ne faut pas verser dans le syndrome d'Atlas. Vous connaissez Atlas, hein, c'est le géant qui porte le monde sur les épaules. Ne cherchez pas à sauver le monde. À vous tout seul, vous n'y arriverez pas. Vous allez juste péter un câble. D'accord ? Donc, cherchez à faire votre part. Ça, c'est une bonne idée. Cherchez à faire quelque chose qui fasse sens pour vous. Cherchez à vous mettre dans un truc dont vous vous dites c'est cohérent avec la bonne direction à prendre. Ne cherchez pas à sauver le monde à vous tout seul. Vous allez faire un burn-out illico. Enfin, je veux dire, c'est absolument évident. Si vous cherchez à faire quelque chose qui va dans la bonne direction, j'ai envie de vous dire, cherchez plutôt dans les petites structures. Alors une petite structure, ça peut être une PME classique qui existe depuis 50 ans, mais qui commence à se dire, ah tiens, et si je faisais autre chose, hein? Je peux vous donner un exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec le dirigeant d'une boîte qui est située dans la vallée de l'Arve. Je ne sais pas si vous voyez où est la vallée de l'Arve, c'est la vallée de Chamonix, et qui est une vallée historiquement très industrielle, parce que c'était là où on avait l'hydroélectricité dans l'ancien temps, et qui s'est notamment spécialisé dans ce qu'on appelle le décolletage. Donc le décolletage, c'est l'usinage de pièces à axe de symétrie centrale. D'accord ? Vous les mettez sur un tour, et puis vous les travaillez. Ça travaille beaucoup pour l'automobile. Et donc cette boîte, elle faisait des injecteurs pour moteur diesel. PME de 300 millions d'euros, 10 établissements dans le monde. Le mec se dit, qu'est-ce que je peux faire d'intelligent ? Bon, il est en train de faire des moteurs électriques pour vélo. Il se demande s'il ne va pas faire les vélos en entier, du reste. Et pourquoi il fait ça ? Parce que c'est une boîte à capitaux familiaux, pas trop grosse, un peu agile, et où les chaînes de commandement sont très courtes. Donc si vous rentrez dans ce genre de boîte, vous allez être très très vite à des postes de responsabilité importants pour la boîte. Donc vous ne sauverez pas le monde, parce que vous êtes dans une PME de 300 millions, vous sauverez peut-être la boîte, ce qui est déjà un bon début, et vous ferez quelque chose où dans votre univers quotidien, vous aurez l'impression d'un monde qui change. Voilà. Donc mon conseil, si vous voulez... Alors vous pouvez aussi rentrer dans des grandes boîtes dont vous savez qu'elles sont d'entrée de jeu du bon côté de la barrière. Vous pouvez rentrer à la SNCF, par exemple. Alors pour un agro, ce n'est pas un truc évident, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous pouvez rentrer dans un truc qui soit dont vous vous dites, bon, tout bien pesé, je regarde, c'est déjà du bon côté de la barrière. Vous pouvez rentrer dans une grande boîte et faire quelques années dans un métier qui fasse sens, alors même que vous pensez que la grande boîte, elle fait un peu moins sens. Par exemple, vous rentrez dans une boîte qui fait de l'exploitation de carrières, c'est pas terrible, mais vous faites de la restauration de biodiversité dans des carrières épuisées. D'accord ? Bon, là, vous pouvez faire quelques années sans perdre votre âme, et puis le jour où vous dites vraiment cette boîte-là, de toute façon, on n'en fera rien dans la transition, ben, vous allez ailleurs et faire autre chose. Voilà, mais il faut pas chercher à sauver le monde, j'insiste, c'est vraiment un truc essentiel, parce que sinon, vraiment, j'insiste, vous allez faire de la solastalgie n'en plus finir. Et il faut faire quelque chose où vous aurez la possibilité, dans le périmètre d'action qui est le vôtre, de voir les choses changer, sans avoir l'impression d'être prisonnier d'un énorme paquebot où vous vous dites « Vraiment, il faut que je reste planqué dans ma tanière pendant 15 ans avant d'être là le jour où ça commencera à changer à la bonne échelle. » Et enfin, la dernière chose qui est intéressante à savoir, c'est que ce qui fait changer les paquebots, c'est les challengers qui leur mordent les mollets. Une grosse boîte, elle n'a qu'un seul intérêt, c'est de capter la rente. Donc les grosses boîtes, toutes les boîtes, hein, Carbon 4 inclus, hein, ne cherchent qu'une seule chose, c'est capter la rente. Donc une fois qu'une grosse boîte, c'est quoi ? C'est une boîte qui a gagné avec les règles du jeu actuelles. Est-ce qu'elle a envie de changer les règles du jeu ? Modérément. Donc la grosse boîte, la seule chose qui l'a fait changer, c'est la contrainte. La contrainte peut venir de la puissance publique, peut venir de ses clients, peut venir de ses RH, les gens qui se barrent en disant « ce que vous faites, moi j'ai plus envie ». Ça peut venir de ses fournisseurs. Le fournisseur dit « j'ai plus la possibilité de vous fournir ». Merde, il va falloir que je change. Et ça peut venir de ses challengers. Parce que les challengers commencent à faire un truc qui fait plus sens pour les clients, qui est mieux, qui est plus intéressant, qui est plus en phase avec ce que les fournisseurs peuvent fournir, ce que la puissance publique va réglementer, etc. Voilà, donc c'est un panorama un peu brossé à grands traits. Hein, voilà. Mais j'insiste, le déterminant premier, c'est choisissez un endroit où vous vous dites que vous n'avez pas besoin d'attendre 10 ans avant que les choses ne changent et ne surestimez pas votre capacité d'influer de l'intérieur des organisations sans avoir bien regardé comment ça fonctionnait.
Ceux qui sont présents à la visio, sachez que vous pouvez poser vos questions aussi, on les transmettra.
Merci beaucoup. Bonjour, merci pour cette présentation très lumineuse. Alors, moi j'ai une question, et vous avez commencé à répondre à ma question, en répondant à la question précédente, mais quand même je vais approfondir, parce que votre exposé est dans le constat, en disant voilà, voilà où on en est, voilà pourquoi, j'ai commencé à comprendre les mécanismes, etc. Et puis vous avez votre entreprise, la Carbone 4. Moi je m'interroge, je voudrais savoir quel est votre angle d'attaque pour les entreprises, pour leur expliquer par exemple cette notion qui est très, très très intéressante, qui est le fait qu'on doit agir en collectif. Comment est-ce que vous leur expliquez, ou comment est-ce que éventuellement vous les convainquez et de participer à un collectif ou de fonctionner en collectif, et quel collectif?
Alors il y a deux niveaux de réponse. La première, c'est qu'une entreprise est déjà un collectif. Ah bah oui, une entreprise, c'est un collectif. C'est un ensemble de gens qui sont payés pour contribuer à un même objet social. Donc c'est un collectif, exactement comme une association, c'est un collectif, c'est un ensemble d'adhérents à une personne morale qui a un objet social, etc., collectif. Bon. Cette école est un collectif aussi, c'est un ensemble de personnes qui viennent suivre, qui viennent suivre des cours en commun et qui, raisonnablement, habitent une partie du temps au même endroit. Donc une entreprise est déjà un collectif. Donc de ce point de vue, on n'a pas besoin de la convaincre. Elle existe. Après, comment est-ce qu'on convainc les entreprises de s'inscrire dans une action collective? Eh bien, on ne les convainc pas. Ou elles pensent que c'est leur intérêt, et à ce moment, elles le demandent. Ou elles pensent que ce n'est pas leur intérêt, et à ce moment, elles ne le demandent pas et elles luttent contre. Voilà, c'est à peu près aussi bête que ça. Alors, quand est-ce qu'elles comprennent que c'est leur intérêt? Quand elles comprennent qu'elles sont face à un cadre où elles ne pourront pas résoudre le problème avec leurs propres moyens dans le cadre donné. Alors, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises en France qui sont favorables à l'idée d'une planification parce qu'elles comprennent bien que faire face aux défis qui nous attendent pour l'avenir dans un contexte complètement libéral, donc volatile, un cadre de marché très volatile, est quelque chose où elles vont prendre plus de coûts qu'engendrer des bénéfices. Dans ce cadre-là, un jour, le gaz vaut $300 le mégawatt-heure, un an après, il vaut $30 le mégawatt-heure, dans deux ans, si ça se trouve, il revaudra 150. Comment est-ce que vous faites vos calculs de retour sur investissement? Vous ne savez pas. On vous dit à un moment, il faut faire que des voitures électriques, sauf que dans le même temps, on vous dit, on va laisser rentrer sur le marché les voitures chinoises qui sont beaucoup moins chères. Alors, Donc aujourd'hui, vous avez un nombre croissant d'entreprises qui souhaitent un collectif qui est à l'échelle du pays ou d'un bloc de pays pour être capable de fixer un cadre qui soit un cadre qui leur donne de la visibilité. Parce que c'est leur intérêt. Donc en fait, vous les avez convaincus. Je ne sais pas si on les a convaincus. Enfin oui, un jour, vous pouvez leur servir un argumentaire. La raison véritable pour laquelle elles en ont envie, c'est parce que c'est leur intérêt. C'est aussi bête que ça. Donc une entreprise, elle peut très bien être éthique, citoyenne, avoir une raison d'être, qu'est-ce que je sais. La seule chose qui est absolument certaine, c'est que vous ne pouvez pas demander à une entreprise de se faire harakiri. Moi, je n'ai jamais vu ça. Vous pouvez lui demander, mais ça n'a strictement aucune espèce d'effet. Donc une entreprise ne se fait pas harakiri. Donc en fait, vous arrivez à la convaincre que le collectif est utile si vous arrivez à la convaincre que c'est son intérêt. Voilà, c'est aussi simple que ça.
On est toujours dans l'illusion de la croissance.
Ah, ça, c'est un autre problème.
Voilà. Mais ce problème-là...
Non, c'est un autre problème. Vous pouvez très bien avoir des entreprises dans un monde sans croissance. Sauf que la croissance des unes fait la faillite des autres. C'est juste ça. Vous pouvez très bien avoir des entreprises dans un monde sans croissance. Il n'y a aucun problème. Ah, vous ne pouvez pas avoir toutes les entreprises en croissance dans un monde sans croissance. Mais vous pouvez très bien avoir des entreprises. Par ailleurs, vous pouvez avoir des entreprises sans croissance. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez des pensions de famille, hôtels, tenus de génération en génération. Et ils ont 40 chambres. Et ça fait un siècle qu'ils ont 40 chambres. Il n'y a pas de croissance. Donc, ça existe, les entreprises sans croissance. Ça ne pose pas de problème. Ah non, ça ne pose pas de problème de principe. Il ne faut pas confondre entreprises et multinationales. Hein. Souvent, dans ces discours-là, on confond les deux. Je vous rappelle que l'essentiel des entreprises, c'est le boulanger du coin, le plombier du coin, le maraîcher du coin, etc. C'est ça, l'essentiel des entreprises. Hein. 3 millions d'entreprises dans ce pays, et il y a quelques centaines de multinationales. On n'est pas du tout à la même échelle.
Bonjour. Merci pour votre présentation. Donc, vous avez évoqué un moment le plan proposé par l'Union européenne de limiter d'ici 2050 le réchauffement à plus de 2 degrés.
Alors, c'est pas un plan proposé par l'Union européenne, c'est ce qu'il y a dans les accords de Paris, donc dans la convention, dans la convention climat.
Ok. Donc, ce plan-là, dans le plan aussi de l'accord, en tout cas plan de l'Europe ou n'importe quel pays, c'est aussi de créer de l'économie, créer du PIB. Du coup, on a un problème où vous avez évoqué la création de PIB corrélée à la création de CO2. Est-ce que le plan de limitation de plus de 2 degrés vous semble un projet viable? Est-ce que vous l'avez étudié ou c'est assez utopique avec la création de PIB qui ne cesse d'évoluer d'ici jusqu'à 2050?
Alors, pour rappeler le cadre, donc il y a un traité qui s'appelle la Convention climat. Un traité, c'est un accord que les pays souscrivent, enfin comment dire, c'est une obligation à laquelle les pays souscrivent librement, c'est ça un traité, hein. Mais une fois qu'ils y ont souscrit, ça leur est opposable. C'est-à-dire qu'ils sont tenus dans la façon dont les pays fonctionnent, ils doivent en tenir compte dans leur fonctionnement interne. Alors la Convention climat et l'accord de Paris dit qu'il est souhaitable de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés par rapport à l'époque pré-industrielle. Et idéalement, 1,5. Alors, les 1,5, ils sont morts. On les a atteints cette année, enfin l'année dernière, une fois. On va les atteindre en moyenne dans les 5 à 10 ans qui viennent. Malheureusement, c'est mort. 2 degrés, c'est pas très bien parti non plus. Ça se traduit dans des plans nationaux de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Parce que pour tenir cet objectif des 2 degrés, la conséquence pratique sur les émissions, c'est qu'en gros, les émissions planétaires devraient baisser de 5% par an à partir de demain matin. D'accord ? Donc à partir de la semaine prochaine, ça devrait baisser de 5% par an. Alors pour vous donner quelques jalons dans cette histoire, je vais vous donner 3 années dans le siècle qui vient de s'écouler où les émissions ont baissé de 5%. Vous avez l'année du Covid, les émissions ont baissé de 5%. Donc la première année d'un plan à moins 5% par an, c'est on a le Covid, puis après le Covid, on ne remet surtout pas l'économie dans l'état pré-Covid. D'accord ? On la laisse là où elle est. Il y a un deuxième épisode sur le siècle écoulé qui a permis aux émissions de baisser de 5%, c'est 1945, quand l'aviation alliée a éradiqué l'industrie de l'Allemagne et du Japon, qui à l'époque étaient des puissances industrielles en proportion dans le monde beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faudrait éradiquer les 2/3 de l'industrie et de l'énergie indienne, par exemple, en une seule année. Ça fait aussi moins 5%. Et puis la troisième année, on peut faire la crise de 1929, qui a aussi fait moins 5%. Évidemment, en se rajoutant aux deux premiers trucs que je viens d'évoquer. Hein. Puis après, il faut une idée pour l'année d'après, puisqu'il faut continuer moins 5% tous les ans. Donc, une fois que je vous ai dit ça, vous comprenez que c'est une baisse, une trajectoire de réduction des émissions qui est extrêmement rapide. Et alors, tout à l'heure, la question qui m'a été posée, ce n'est pas sur la corrélation PIB-CO2, c'est PIB-énergie. Mais il se trouve qu'il y a également une corrélation quasi parfaite entre énergie et CO2. Et en fait, le contenu en CO2 de l'énergie aujourd'hui est à peu près le même que quand je suis né. D'accord ? Ni le nucléaire, ni les nouvelles énergies renouvelables, n'ont à l'échelle planétaire significativement changé le contenu carbone de l'énergie, parce que vous avez 80% de combustibles fossiles dans l'énergie depuis maintenant 60 ans, et que ça fait que le contenu carbone, vous avez à peu près un peu plus de 200 grammes de CO2 par kilowattheure en moyenne, toutes énergies confondues dans le monde, et c'est à peu près constant sur les 60 dernières années. Ce qui veut dire que si on devait baisser de 5% par an les émissions de CO2 sans compter sur une décarbonation rapide de l'énergie, alors on devrait baisser l'énergie de 5% par an. Et si on ne peut pas compter sur une efficacité énergétique massive de l'économie, en particulier de la production matérielle, ben ça veut dire une production matérielle qui baisse de 5% par an. Donc ça veut dire que tous les ans, on a dans le monde 5% en moins de voitures, de mètres carrés de logement, de vitres, de téléphones portables, d'écrans de télévision, de chemises, de chaussures, de tables, de tasses à café, de paquets de café, du reste aussi, etc. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde dans son ensemble est d'accord pour accepter ça? La réponse est non. Alors, ça peut être non parce que les gens n'ont pas assez peur d'un truc qui devrait vraiment faire peur. Ça peut être non parce que, objectivement, les conséquences du réchauffement climatique vont nous faire moins mal que ça nous ferait mal d'avoir moins 5% par an demain matin parce que ça foutrait un tel bordel dans l'économie que derrière vous auriez des effondrements, des guerres, des troubles, des je sais pas quoi. Moi, je sais pas. Ça, c'est, je veux dire, on peut faire de la science-fiction, là, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas parti pour le faire. Qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Le réchauffement continue. Voilà. Et après, ça veut dire que c'est des facteurs limitants externes ne dépendant pas de notre volonté qui vont s'appliquer. Alors, des facteurs limitants externes, il y en a un certain nombre. Il peut y avoir des facteurs limitants qui n'ont rien à voir ni avec l'énergie ni avec le climat, qui sont les pandémies. Demain, on peut se taper une bonne pandémie virale, une bonne saloperie respiratoire, bien un truc aussi contagieux que le Covid et aussi létal que je sais pas quoi, que Ebola. Et ben là, bon, voilà, les deux tiers de l'humanité y passent. Bon, très bien. À ce moment, on a résolu au passage le problème des émissions de gaz à effet de serre. On peut avoir un épuisement des combustibles fossiles nous forçant à baisser les émissions de toute façon. Puisque s'il y a moins de combustibles fossiles, ben, on émet moins, fatalement. Et en ce qui concerne le pétrole, cet épuisement, il a déjà démarré à petite vitesse. Il y a un travail documenté du Shift Project qui a été publié il y a un an et demi, en ayant eu accès à une base de données très complète de l'ensemble des gisements pétroliers dans le monde, qui montre qu'on est actuellement, en fait, on est actuellement depuis 5 ans, 6 ans même, sous le maximum historique de production de pétrole qui a eu lieu en novembre 2018. C'était 2018, pas 2019, année d'avant le Covid, 2018. À peu près, quasiment 85 millions de barils jour de seul pétrole, hein, pas le reste. Et aujourd'hui, on se balade entre 80 et 82. Et depuis cette époque-là, on se balade entre 80 et 82. On n'est jamais remonté à 85. Et les travaux du Shift Project montrent que d'ici à 2030, on va démarrer une véritable descente. Voilà. Dont les conséquences sur l'économie mondiale sont difficiles à définir. Moi, je pense notamment que ça va créer une mondialisation, ça va diminuer de façon croissante la mondialisation. Et aujourd'hui, la mondialisation est le soutènement de toutes les économies nationales, parce que plus aucune économie nationale ne peut fonctionner sans les minerais d'ailleurs, sans les pièces détachées d'ailleurs, sans les, etc. voilà, mais bon, ça, c'est un avis qui n'engage que moi. Et ça peut également être les conséquences du réchauffement climatique lui-même, ou de l'érosion de la biodiversité, qui force à une contraction de l'activité. Parce qu'on n'a plus assez à manger, par exemple. Si on n'a plus assez à manger, on aura d'autres problèmes que d'aller au parc Astérix. Hein. Et le plus vraisemblable, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, que tout allait changer en même temps, c'est qu'on va avoir une conjonction de tout ça qui va s'appliquer de manière croissante. Et donc, si on ne baisse pas les émissions de gré, on finira par les baisser de force. D'accord, ça sera l'un ou ça sera l'autre. Et c'est ce qui me fait dire, moi, que je préférerais que ça se fasse de façon organisée, même si ça conduit un certain nombre de gens à avoir moins de voitures et à faire un peu plus de vélos électriques, et même si ça conduit à habiter dans des surfaces un peu plus petites, je pense que c'est préférable de le faire de manière planifiée et à avoir moins de résidences secondaires. C'est préférable de le faire de manière planifiée que de le faire de manière subie, parce que de le faire de manière subie, c'est en général des désorganisations qui amènent des désagréments beaucoup plus importantes, dont souvent des privations de liberté rapides. Et les privations de liberté rapides, c'est pas un truc qu'on trouve très sympa. Voilà, mais c'est clair que la perpétuation jusqu'en 2100 d'une croissance économique amenant plus d'émissions dans un monde où on n'aurait pas commencé à payer le prix ou à payer les conséquences de cette trajectoire, personnellement, j'y crois pas.
Je vous remercie pour vos réponses.
Moi, c'était pour revenir sur la première question qui a été posée. Donc, en fait, on parlait du travail en entreprise, dans la fonction publique, etc. Donc, en fait, il y a un ouvrage d'une philosophe qui s'appelle Céline Marty, qui s'appelle donc « Travailler moins pour vivre mieux ». Et en fait, elle dit que travailler, finalement, plus on travaille, plus on produit, plus on consomme. Et donc, en fait, travailler, ça fait partie de tout ce système capitaliste qui nous mène un peu à notre perte. Et donc, est-ce que finalement, on ne devrait pas juste travailler moins pour résoudre un peu cette crise écologique, quitte à, je ne sais pas, peut-être travailler 3 jours en entreprise et après le reste dans des, enfin, faire de la paysannerie ou autre dans des jardins partagés, des choses comme ça.
Alors, la seule manière de préserver l'environnement, c'est de travailler moins pour produire moins. Si vous travaillez moins tout en produisant plus, ça ne marche pas. Donc en fait, il y a un élément central dans ce débat qui s'appelle ce qu'on appelle la productivité du travail. Jusqu'à maintenant, le fait de travailler moins a en fait été un bénéfice de l'augmentation de la productivité du travail. Et en fait, en termes physiques, cette augmentation de la productivité du travail, c'est juste que les machines bossent à notre place. Si un agriculteur de 2020 est capable de produire 200 fois la quantité de nourriture d'un paysan du Moyen-Âge, c'est pas parce qu'il a 200 fois plus de bras et 200 fois plus de jambes, c'est parce qu'il a des tracteurs, des usines d'engrais et de pesticides, ou de phytosanitaires, comme on dit ici, des camions, des tracteurs, des silos et de l'irrigation. et de la sélection variétale. D'accord, c'est tout ça. Mais ce n'est pas du tout parce qu'il est Hulk et Superman réunis et qu'il laboure 200 fois plus vite avec ses petits bras musclés. Ce n'est pas du tout ça qui se passe. Donc en fait, la productivité du travail a fortement augmenté parce qu'en fait, les machines bossent à notre place. Et ces machines, elles ont notamment permis au temps travaillé d'être divisé par deux en un siècle. Donc en 1900, on travaillait deux fois plus dans l'année pour une production qui était bien inférieure. Donc l'idée que dans un monde dans lequel on sera plus sobre en termes de consommation, donc moins, avec une production qui sera plus basse, on va travailler moins, moi je dis « eux », j'en suis pas sûr du tout, ça dépend de ce que sera la productivité du travail dans ce monde-là. D'accord ? Ce que les philosophes, en général, ne voient pas, parce que eux, ils raisonnent par induction dans le monde économique, ou plus exactement dans le monde physique qu'ils connaissent pas bien, donc ils voient pas pourquoi la productivité du travail baisserait à l'avenir, parce qu'ils voient pas que c'est les machines qui bossent à notre place. Enfin, pas tous, en tout cas. Si on se dit que la sobriété énergétique, elle va nous être imposée de gré ou de force, d'une certaine manière, c'est-à-dire si on va devoir y passer de toute façon, à ce moment, on renverse le raisonnement. Est-ce qu'on est sûr qu'on va avoir besoin de moins travailler dans un monde dans lequel il y aura beaucoup moins d'énergie ? Ben, c'est pas sûr. Je vais vous donner un exemple. Si demain matin, on vous supprime ou on me supprime la machine à laver, je peux vous assurer que je vais instantanément travailler beaucoup plus. Ou alors, je vais puer. Mais bon, il va falloir que je choisisse, quoi. Donc, vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de... Et c'est pareil, si on me supprime ma bagnole pour faire les courses, enfin, moi, en l'occurrence, c'est pas mon cas, mais pour plein de gens, c'est le cas, bah, vous allez travailler plus au sens où vous allez devoir aller au magasin à pied ou à vélo, ça va vous prendre plus de temps, vous devrez faire plus d'aller-retour et vous ramènerez pas d'eau en bouteille. Enfin bon, bref. Donc, le fait d'avoir moins d'énergie, c'est pas du tout la garantie qu'on va travailler moins. Moi, je pense que c'est l'exact inverse. Je pense que c'est la garantie qu'on va travailler plus. Il n'empêche que dans le monde dans lequel nous sommes, vous avez déjà des gens, alors c'est souvent des gens du dessus du panier, hein, qui choisissent de travailler moins pour gagner moins, c'est les gens qui se mettent à temps partiel de façon délibérée. Alors à Carbon 4, on en a toute une palanquée de gens qui se mettent au 9/10, au 4/5, certains même au 3/5. En dessous, on leur dit non, parce qu'on leur dit que voilà, c'est quand même compliqué de gérer quelqu'un qui est au 1/5. Mais vous avez ce phénomène qui arrive, mais ça concerne des cadres supérieurs. Les gens de Carbon 4, c'est des cadres supérieurs. Donc si un cadre supérieur, vous lui carottez 20% de son salaire, s'il n'a pas des goûts de luxe, il s'en sort toujours. D'accord ? C'est un choix de vie qu'il fait. Et il a plus de temps pour aller crapahuter en montagne, passer du temps avec ses enfants, s'il en a, etc. Et on a plein de gens qui font ce choix-là. Je ne sais pas si la femme de ménage qui vient ici à 6h du matin, pour reprendre cet exemple... Alors là, je vous invite vraiment, ce n'est pas du tout du comment dire... Je dis ça sans aucun jugement de valeur. Mais à chaque fois que vous tenez un raisonnement, posez-vous la question de savoir si la personne qui vient faire le ménage dans cet amphi à 6h du matin adhérerait au raisonnement. Je vous assure que c'est un très bon test de vérité. Est-ce qu'elle serait d'accord, ou il, je ne sais pas, pour gagner 20% de moins, en travaillant 20% de temps en moins ? Je ne suis pas complètement persuadé que la réponse serait positive. Donc cette affaire de... Par contre, la philosophe, je suis à peu près sûr qu'elle fréquente des cadres supérieurs. Alors, encore une fois, je le dis sans snobisme de classe, sans jugement de valeur. Il n'y a pas de mépris, rien du tout. Mais l'observation du monde qui nous entoure conduit à dire qu'il faut faire attention à ça. Et il faut d'autant plus y faire attention que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui en France, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Todd dans son très bon dernier bouquin, et comme dans toutes les démocraties occidentales, en fait, on se rapproche d'une oligarchie occidentale où les gens sont quand même beaucoup dans un entre-soi, de gens, alors, pour ce qui me concerne, de gens bien lotis. Donc on a tendance à tenir des raisonnements qui ne se confrontent pas toujours à la réalité de ce qu'est de vécu par l'ensemble de la population. Il faut faire gaffe à ça. Il n'empêche que la direction dans laquelle on va, je pense quand même, ça va être que si on consomme moins, c'est qu'on produit moins, et si on produit moins, soit on bosse moins parce que la productivité est toujours la même, soit, le plus vraisemblable, c'est qu'on bossera toujours autant, voire on bossera plus parce que la productivité va baisser, parce qu'il y aura moins de machines pour bosser avec nous, globalement. Un dernier exemple dans cette veine, c'est si on démondialise le monde, il y a plein de ressources qui cessent d'être disponibles en France. Déjà, on n'a plus une mine métallique en activité en France, quasiment. Hein. Bon. Donc, ça veut dire qu'il faudra travailler beaucoup plus pour le même produit, qui sera beaucoup plus cher et beaucoup plus difficile à obtenir. Et on va créer toute une économie de services qui visera à faire durer ces trucs-là le plus longtemps possible. On travaillera, on réparera des machines à laver, on travaillera.
On a une dernière question avant de passer à la deuxième partie. C'est une question de quelqu'un qui est avec nous en visio, qui est la suivante. À quoi ressemble le monde ?
Est-ce qu'on sait si c'est un homme ou une femme ? Parce que normalement, c'est un homme, là, maintenant.
Aucune idée. À quoi ressemble le monde et la France en 2050 et en 2100 dans votre esprit ?
Alors, je n'en ai aucune idée. Et de toute façon, la seule chose dont je suis certain, c'est que si je vous disais à quoi ça ressemble selon moi, ça n'y ressemblera pas. Voilà, donc... c'est beaucoup plus facile de dire ou de donner un cadre général de ce vers quoi il faudrait idéalement aller pour tenter de répondre à un cahier des charges donné que de dire à quoi va ressembler le résultat. Voilà. Quand vous étiez petit à l'école, on vous disait « si tu travailles bien, tu vas réussir ». Est-ce que pour autant vous saviez si vous allez devenir coiffeur à succès, ingénieur agronome ? Vous ne saviez pas à l'époque. Et je pense qu'une bonne partie des gens dans cette salle n'avaient pas d'idée, il y a 20 ans, de ce qu'ils feraient 20 ans plus tard. Donc, je ne sais pas. La réponse, c'est je ne sais pas.
Merci. On va maintenant passer au thème agriculture. Donc, j'ai une première question pour vous. Comment aborder...
À quoi ressemblait le plateau de Saclay il y a 40 ans ? Eh bien, à votre place, il y avait des champs de maïs. Voilà à quoi ça ressemblait.
Comment aborder le problème de la compétition entre les cultures nourricières et les cultures destinées aux biocarburants ?
En tapant sur la tête des consommateurs, des conducteurs et des constructeurs de voitures. Moi, j'ai toujours pensé que les agrocarburants, c'était parce que je ne les appelle pas des biocarburants, parce que le terme bio me gêne, donc je les appelle des agrocarburants. Et j'ai toujours pensé que c'était un truc qui était ennuyeux. Enfin, personnellement, le fait qu'on fasse tout le colza qu'on fait en France, notamment pour mettre de l'huile de colza dans les réservoirs de voitures, ça m'ennuie un peu. En Indonésie, ai-je lu, la part de l'huile de palme qui va dans les voitures vient de dépasser la part qui va dans l'alimentation. Je pense que ça aurait été beaucoup plus simple. Alors, pardon, je vais repartir du début. La deux chevaux dans laquelle j'ai appris à conduire, quand j'étais pas très loin, là, juste à côté... et dont c'est un de mes titres de gloire dont je m'enorgueillis beaucoup, j'ai réussi à changer l'embiellage quand j'étais jeune. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans une voiture moderne, je ne sais même pas où sont les vis qui permettent de... consommait 5 litres au 100. D'accord ? C'était une voiture qui devait faire 10 chevaux de puissance de moteur, qui plafonnait à 80 km/h quand il y avait le vent dans le dos, qui pesait 500 kg. Aujourd'hui, on conduirait toujours des deux chevaux, c'est-à-dire des voitures de 500 kg plafonnant à 80 km/h de 10 chevaux de puissance de moteur. Ça ne consommerait pas 5 litres, ça consommerait 1 litre. Sauf que la voiture ordinaire consomme toujours 5 litres. Donc, comment est-ce qu'on aurait pu se passer des agrocarburants ? En faisant des voitures intermédiaires entre les tanks qu'on achète aujourd'hui et la deux chevaux que j'ai appris à conduire quand j'étais jeune, qui consommerait 2 ou 3 litres au 100, ce qui ne pose techniquement aucun problème, et on n'aurait pas besoin des agrocarburants. Donc voilà, à mon avis, ce qu'il faudrait faire et ce qu'il aurait fallu faire.
Du coup, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire à propos des voitures qui consomment beaucoup.
Alors pardon, pourquoi est-ce qu'on sait bien qu'on n'ait pas besoin des agrocarburants ? Parce qu'on a une compétition d'usage sur le sol, et aujourd'hui, cette compétition d'usage fait que tous les gens qui revendiquent de la biomasse pour se sortir des énergies fossiles, ça ne boucle pas. Si vous regardez la biomasse réclamée par le secteur aérien pour remplacer le kérosène par des carburants dits d'origine durable, rien que pour le secteur aérien, il faudrait plus que la récolte commerciale de bois en France. Rien que pour le secteur aérien et rien que pour les avions qui décollent d'un aéroport français. Qui, bien évidemment, vous ne prendrez pas quand vous irez en Erasmus. Si je regarde derrière les revendications d'Engie ou de GRT Gaz, plus exactement, pour mettre du biogaz dans les réseaux de gaz qu'il faut conserver, il y en a pour 200 TWh, c'est-à-dire la moitié de la consommation de gaz fossile actuelle, et vous regardez la quantité de biomasse que ça signifie, etc. Après, il y a les gens de la construction qui veulent du bois pour remplacer le système acier-ciment par du système en bois, etc. Enfin, en gros, tout le monde en veut, et évidemment, ça ne boucle pas. Donc, il va falloir prioriser les usages. Et dans les voitures, c'est très facile de se passer des agrocarburants, en remplaçant une partie des voitures par des vélos électriques, en remplaçant une autre partie des voitures par des voitures électriques, et en remplaçant les voitures à pétrole par des voitures à pétrole qui consomment 2 litres au 100. Donc c'est tellement facile de le faire qu'il n'y a pas de raison de prendre ce sol qui va être si précieux, et où par ailleurs, pour finir, les rendements strictement agricoles vont baisser, à cause de la pression du changement climatique, à cause de l'érosion des sols, le changement climatique est notamment le stress hydrique, hein, à cause de l'érosion des sols et à cause de la disponibilité à l'avenir des auxiliaires actuels de l'agriculture intensive qui ne sont pas garantis. Tout ça fait que c'est pas du tout sûr que les rendements continuent. En France, les rendements céréaliers ont arrêté d'augmenter il y a maintenant 20 ou 30 ans. C'est pas du tout sûr qu'ils restent au niveau actuel pour l'éternité. Donc le sol, on va en avoir déjà besoin pour se nourrir, pour nourrir éventuellement des animaux, parce qu'il y a plein d'endroits où c'est quand même ça qu'il faut faire. Et pour avoir un peu de matériaux, du bois, du chanvre, du lin, etc. Et les agrocarburants, c'est très très bas dans l'ordre de priorité. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous fais la réponse. Et il n'y en aura pas pour tout le monde. Voilà. C'est pour ça que je vous faisais cette réponse. S'il y en avait pour tout le monde, ça ne serait pas gênant. Mais là, il n'y en a pas pour tout le monde.
Ok. Bah, du coup, c'est bien que vous m'ayez interrompu pour compléter. Du coup, je vais pouvoir rebondir sur deux choses. À la fois sur les voitures qui consomment autant, voire plus qu'avant, et sur la répartition des sols. Donc à propos des voitures... comment diaboliser la Porsche du coup et valoriser la Dodoche ou le vélo électrique afin de remplir les objectifs que vous proposez?
Alors je suis désolé de vous faire cette réponse genrée, je suis désolé. L'essentiel des fois dans ma vie où j'ai croisé une Porsche, le conducteur était mâle, doté de testicules. Et donc je pense que si n'importe quel représentant du genre doté d'ovaires lui dirait « tu serais quand même vachement mieux si tu avais le bolet galbé sur ton vélo », ça jouerait son petit effet. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que nous sommes des animaux sociaux, je l'ai dit tout à l'heure, et tous les animaux sociaux ont des codes et des éléments de statut qui sont absolument essentiels parce qu'ils cherchent tous à monter dans la hiérarchie du groupe. C'est vrai chez les chevaux, même chez les vaches, il y a des vaches combattantes dans la Val d'Hérens en Suisse, là, des rennes qui se chamaillent au début de l'été. Les éléments d'incarnation du statut sont des éléments qui sont... À quoi sert une Porsche sinon à incarner le statut? Ça ne sert à rien d'autre. La vitesse est limitée à 130 dans ce pays. Ça ne sert à rien d'autre. Donc, la seule façon de lutter contre les Porsches, c'est de faire en sorte que les gens qui ont envie d'avoir des éléments de statut ne soient pas valorisés avec cet élément de statut-là. Il n'y a pas d'autre moyen. Voilà, c'est la seule façon de faire. Et comme c'est essentiellement des mâles, voilà, d'où ma réponse.
Ayons les mollets galbés. Maintenant, du coup, sur la répartition des sols, est-ce qu'on ne reviendrait pas avec les agrocarburants à la situation d'avant l'époque pétrole, où avant la compétition se faisait entre les cultures fourragères et les cultures alimentaires? Et maintenant, du coup, on a toujours une compétition de ce genre, mais cette fois entre les cultures agrocarburants et les cultures alimentaires toujours.
Bien sûr. Le pétrole a libéré la totalité du sol pour nos usages. Avant le pétrole, on avait besoin des forêts pour avoir du matériau de construction. Grâce au pétrole et grâce aux mines de fer, on est passé du sol au sous-sol. C'est-à-dire qu'on a construit avec... Alors, un peu de sol quand même pour les carrières, mais c'est du... Voilà. Mais sinon, carrières et granulats. Mais sinon, on extrait de l'acier du sous-sol, enfin, ou du sol, parce que les mines sont à ciel ouvert, mais c'est pas beaucoup de sol, du pétrole du sous-sol, et on a remplacé le bois. Pareil pour les vêtements. Les fibres synthétiques ont supprimé pour partie la nécessité de cultiver en surface des fibres naturelles, du lin, du coton, ou des moutons pour la laine. En plus, ça gratte moins. Vous aviez besoin de surfaces pâturées très importantes pour les animaux de trait. On les a remplacées par des tracteurs qui mangent du sous-sol. Alors aujourd'hui, on a toujours des surfaces pâturées importantes, mais pour des animaux qu'on mange nous. Les vaches laitières et les chevaux, on en mange un peu moins. Et du reste, les boucheries chevalines qu'on avait en France, c'était de la valorisation de déchets. C'est-à-dire une fois que le cheval de trait il avait fait son office, vous n'alliez quand même pas le gaspiller en le mettant dans un cimetière pour chevaux. On le boulottait dans une boucherie chevaline. Le fait d'avoir... il y a une manière, j'ai envie de dire, de limiter cette compétition d'usage sur la traction, sur la force motrice, c'est de revenir à des chevaux de trait, donc de remplacer les vaches laitières normandes par des chevaux de trait. Alors on mangera un peu moins de camembert, on mangera le cheval. Mais ça ne crée pas trop de compétition d'usage. Mais pour le reste, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va avoir une compétition d'usage absolument partout. Pour faire de la chimie organique, on peut très bien utiliser des végétaux. Sauf que vous avez besoin du sol. Pour avoir de l'énergie, vous pouvez très bien utiliser des végétaux. Sauf que ça demande du sol, etc. Donc à chaque fois, on va avoir besoin de sol, et ce sol, on n'en aura pas assez pour remplacer un pour un tous les usages que nous donnent aujourd'hui les combustibles fossiles, loin s'en faut. Voilà, donc on va avoir besoin de... Ah. Bientôt, je vais être remplacé par une session de cinéma. Qu'est-ce qu'on regarde? Ah, c'est le... C'est votre c'est le truc qui s'éteint automatiquement, là, c'est ça? C'est l'intelligence artificielle. Voilà. De temps en temps, l'intelligence artificielle, c'est de la bêtise artificielle.
Pour continuer du coup sur les productions agricoles, devrait-on faire de certaines productions agricoles, comme par exemple la viande rouge, des produits uniquement de luxe, donc, ou en tout cas avec de hauts standards de prix, en augmentant les prix, par exemple en surtaxant certains produits comme les fruits hors saison, les productions au carbone, donc comme la viande rouge, ou alors devrait-on augmenter ces prix en abattant massivement certains cheptels, comme peuvent le faire les Irlandais ou autres? Est-ce une bonne idée?
Alors, la réponse définitive à cette question, enfin définitive, pas définitive, mais, c'est qu'on a actuellement au Chief Project un groupe de travail qui se penche sur ce genre de choses, sur l'agriculture. Il y a, au moment de la dernière élection présidentielle, on avait créé un ensemble de propositions pour décarboner l'économie française, qu'on avait appelé le plan de transition de l'économie française. Alors, il y avait dedans un chapitre agriculture, mais qu'on avait un peu bâclé, parce que la personne qui devait piloter cette partie-là du travail a été happée par sa vie professionnelle en cours de route, et donc on a un peu laissé le chantier en plan. Donc comme ça ne nous plaisait pas du tout, on a décidé de s'y recoller. Donc là, on a deux personnes à plein temps au Chief Project qui travaillent là-dessus, et elles vont notamment tenter de répondre à cette question. Alors ce qu'on peut dire de manière provisoire, c'est que si on regarde les ingrédients de la recette, il est souhaitable d'avoir un cheptel bovin plus faible. Il est souhaitable que de ne pas retourner les prairies pour faire des cultures, parce qu'à ce moment, on déstocke du carbone de la prairie. Il est souhaitable que les éleveurs gagnent mieux leur vie qu'ils ne la gagnent aujourd'hui, qu'ils aient plus ou moins de vaches, et plus ou moins de lait. Et il est souhaitable, pour des raisons diététiques, que les Français mangent un peu moins de viande rouge, voire beaucoup moins de viande rouge. Enfin, il est souhaitable que, si on a une baisse de la production domestique, ça ne soit pas compensé par des importations. Donc on met tous ces ingrédients dans la marmite, c'est le cas de le dire, on secoue un grand coup, et normalement, ça vous donnera ce qui va sortir dans quelques mois dans le travail du Chief Project. Je n'ai pas la réponse complète au moment où je vous parle, j'ai les éléments du cahier des charges, c'est-à-dire les trucs qui me paraissent souhaitables qu'on obtienne dans le résultat final. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit quand je vous ai dit ça. Après un jalon historique, en 1800, on mangeait 5 fois moins de viande qu'aujourd'hui. Donc la viande était à l'époque un produit de luxe, et si vous remontez encore plus loin à l'époque d'Henri IV, même le déchet de ponte, c'est-à-dire la poule, était un produit de luxe. Donc c'est clair que l'accès à la viande en quantité croissante est une marque de l'opulence, et en particulier une marque de l'abondance énergétique. Quand vous regardez l'accès à la viande, c'est très très bien corrélé à l'abondance énergétique, parce que c'est très très bien corrélé à la productivité agricole, qui elle-même est très bien corrélée à l'abondance énergétique.
Je vais rebondir sur les revenus des agriculteurs. Donc, d'après vous, augmenter les effectifs agricoles permettrait de décarboner l'agriculture tout en revalorisant les produits agricoles. Mais est-ce que cela permettrait-il d'améliorer les revenus individuels des agriculteurs?
Alors, je vais vous le dire plutôt dans l'autre sens. Quand vous regardez aujourd'hui, ça c'est un des trucs que j'adore raconter à vos petits copains des mines quand je leur fais cours, c'est que le prix réel de l'alimentation... En France, enfin, j'ai la série longue aux États-Unis, parce qu'en France, je mets toujours un quart d'heure à ne pas trouver la série que je cherche sur le site de l'INSEE, alors que sur les sites américains, en très exactement 10 secondes, je trouve ce que je veux. Bon. Donc j'ai fait le calcul pour les États-Unis, mais je sais qu'en France, ça a été exactement la même évolution en tendance. Aux États-Unis, en un siècle, le prix réel de l'alimentation a été divisé par à peu près 10, et le prix réel de la viande, à mon avis, on est plutôt dans un facteur 30. Alors comment est-ce que je fais pour faire ce calcul ? Vous ne pouvez pas vous baser sur l'évolution des tickets de caisse en sortie de magasin d'alimentation, parce que ce que vous allez payer aujourd'hui quand vous allez chez Carouf, c'est tout sauf de la nourriture. Vous allez payer de l'emballage, du transport routier, de la construction de magasin, du salaire de caissier, du salaire de magasinier, de l'éclairage du magasin, du chauffage de magasin, de la construction de parking, tout sauf de la bouffe. Et les dividendes des actionnaires de Carouf et le salaire de M. Bompard. Donc vous allez payer tout ça qui n'est pas de la nourriture. La nourriture stricto sensu, elle vous coûte en général moins de 20% de votre ticket de caisse. Alors vous pouvez prendre un exemple tout con. Alors ça, c'est avant Covid que j'avais cet exemple en tête. Maintenant, je n'ai pas regardé, il faudrait que je regarde les prix. Prenez une boîte d'œufs. Donc les œufs de poule pondeuse en cage, là, ceux que je n'achète pas personnellement, mais que beaucoup de gens achètent, 1,50€ la boîte avant Covid, en gros. Le prix de l'œuf en sortie d'exploitation avicole, en Bretagne, là, à cette époque-là, c'était 6 centimes l'œuf. 6 fois 6, 36. Vous avez donc 36 centimes d'œufs dans une boîte que vous payez 1,50€. Qu'est-ce que vous avez fait comme transformation pour les œufs que vous achetez au magasin? Rien. Rien. C'est-à-dire, vous ne les avez pas cuits, vous ne les avez pas déshydratés, vous n'en avez pas fait une omelette, vous n'en avez pas fait les 4 quarts, rien. Les œufs, bon, voilà. Donc là, vous voyez bien que rien que sur une boîte d'œufs, ce que vous allez payer dans le magasin, c'est en gros un quart du ticket de caisse. D'accord ? Donc quand on vous dit que l'alimentation coûte avant Covid 12-13% de ce que les Français gagnent, en fait ce n'est pas 12-13%, et quand vous allez au restaurant et que vous mangez une omelette à 3 œufs, vous allez payer 6 ou 7 euros, les œufs eux-mêmes, 3 fois 6, 18, 20 centimes. Vous payez tout sauf de la bouffe au restaurant. Vous payez le cadre, le service, le machin, vous ne payez pas la bouffe. Bon. Enfin, ou très peu. Donc aujourd'hui, la réalité du prix de la nourriture, c'est que ça vous, en fait, quand on regarde la dépense alimentaire des Français, vous avez un petit 20%, plus proche de 10%, qui concerne vraiment le prix de la nourriture elle-même. Alors que la nourriture coûtait 25% de ce que les ménages américains gagnaient il y a un siècle. Et il y a un siècle, ils achetaient essentiellement des produits bruts aux paysans du coin, et ça ne comptait, à mon avis, même pas, parce que ce n'était pas dans le budget à dépenser, la production propre, la production pour compte propre, parce que il y a un siècle, énormément de ménages étaient ruraux ou avaient un potager dans le fond du jardin, et donc ils n'achetaient pas tout ce qu'ils mangeaient. Même en France, il y a un siècle, il y avait énormément de gens. Tous les gens qui n'habitaient pas dans les cœurs de ville, ils avaient un potager avec un clapier, 3 lapins, 4 poules et des patates. En fait. Donc en fait, le prix réel de la nourriture, j'insiste vraiment là-dessus, il a été terriblement diminué. Sauf qu'il y a un siècle, on ne buvait pas de coca, on ne mangeait pas de hamburger, on n'achetait pas de Nutella et on n'achetait pas d'eau en bouteille. Enfin bon. Donc en fait, aujourd'hui, si on veut décarboner l'agriculture, il y a des efforts à demander à tout le monde. Il y a des efforts à demander au consommateur qui va devoir refaire la cuisine, acheter moins de produits transformés, y compris les produits qui aujourd'hui ont des images de marque très fortes, véhiculent des codes sociaux très forts, etc. Je fais une incise là-dedans. Au moment de l'inflation alimentaire, je le sais pour avoir discuté avec des dirigeants de la grande distribution, les Français ont acheté moins de fruits et légumes, moins de viande et de poisson, ils continuaient d'acheter autant d'eau en bouteille et de Nutella, et autant de coca. D'accord ? Pourquoi ? Parce que les parents ne voulaient pas que leurs gamins disent à la cour de récré « Chez moi, on n'a plus les moyens d'acheter du Nutella. » C'est la puissance de la marque. Alors qu'aucun gamin ne va dans une cour de récré en disant « Chez moi, on n'a plus les moyens d'acheter une Pink Lady. » Donc, ou une Golden, ça n'existe pas. Ou un Macro. Et quand on donne, me disaient les gens qui, à la même époque, étaient dans la distribution, dans l'aide alimentaire, des tickets d'aide alimentaire aux ménages, ce à quoi ils les utilisent, c'est justement pour réacheter des fruits et des légumes. Donc il va y avoir un effort d'éducation du consommateur, pour qu'il accepte, il apprenne à conjuguer. Et ça, c'est du ressort des associations et des figures emblématiques dans le monde culinaire. À une époque, Jean-Pierre Coff, alors que vous ne connaissez peut-être pas parce qu'il est mort il y a quelques années, il avait fait un effort là-dedans. Il avait publié un bouquin en disant « Bien manger pour 10 euros par jour ». Et en fait, ce qu'il donnait, c'était des recettes de cuisine. C'est-à-dire que ce n'était pas bien manger en achetant des pizzas toutes prêtes. C'était bien manger en faisant le marché, en achetant des patates de bonne qualité, des poireaux de bonne qualité, des œufs de bonne qualité, etc. Puis vous faites des trucs qui ne coûtent pas trop cher, mais qui sont bons quand même. Ça, c'est une partie de la solution. Donc ça, c'est un côté consommateur. Côté producteur, il va devoir effectivement faire plus propre. Mais s'il fait plus propre, il fera souvent plus cher. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on lui achète ses produits plus chers, et donc il faut que la collectivité accepte l'idée que la nourriture sortie d'exploitation va coûter et doit coûter plus cher. D'accord ? Et de toute façon, vous ne remettrez pas de l'emploi dans l'agriculture, ce qui est aussi nécessaire dans un certain nombre de cas de figure pour faire mieux, en particulier si vous rediversifiez les productions, ce qui est nécessaire pour être moins dépendant des transports longue distance. D'accord ? Il va falloir déspécialiser pour partie des bassins de production. Aujourd'hui, un tiers des camions en France transportent un truc qui se mange. Donc, sans pétrole à l'aval, les régions spécialisées, ça ne tient plus, ça ne marche plus. Donc, on va continuer à les spécialiser un peu quand même, à l'évidence. On ne va pas faire de la vigne dans les régions de pâturage, enfin, en tout cas, pas Peut-être un peu, en fait, avec le changement climatique. On va quand même devoir déspécialiser les régions. Si on remet des haies, par exemple, le tracteur devra faire le tour. Donc, on va nécessairement un peu diminuer. Si on mélange les espèces pour avoir plus de résistance aux maladies, un meilleur rendement agronomique, etc., ça demande plus de boulot. Tout ça fait qu'en sortie d'exploitation, la nourriture va coûter plus cher, et doit coûter plus cher, et il faut que les Français l'acceptent. Et donc ça veut dire qu'il faut corrélativement qu'ils acceptent d'acheter moins de fringues, ou d'acheter moins de tasses, ou d'acheter moins de iPhone, ou d'acheter moins de je sais pas quoi. Ce qui est l'exact inverse du choix qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. La nourriture coûtait de moins en moins cher, et donc ils ont acheté de plus en plus d'iPhone, de pulls, de machin, etc. Donc il y a un effort côté consommateur, il y a un effort côté producteur. Encore une fois, on va devoir lui demander de produire plus. Et la seule manière de lui demander de produire moins tout en gagnant correctement sa vie, c'est de monter le prix en sortie d'exploitation. Et ça va demander de se protéger contre les importations. Donc il y a un autre truc qu'on va pas pouvoir conjuguer à l'avenir, c'est marché ouvert et aide aux producteurs ou aide à la production. D'accord ? Donc aujourd'hui, on a fait le choix depuis des décennies maintenant de voir l'agriculture en Europe comme une commodité disponible sur les marchés, c'est évident qu'on ne peut pas faire une agriculture entre guillemets propre et résiliente, ce qui demande de l'anticipation, ce que les marchés ne savent pas faire, ce qui demande de la protection quand il y a des surcoûts liés à la protection de l'environnement, ou etc., ce que les marchés ne savent pas faire. Donc il va falloir, pour partie, totalement changer le système qui encadre, et ça c'est du ressort de la puissance publique. Donc en gros, chacun va devoir faire des efforts, la puissance publique va devoir sortir de son idéologie libérale, mondialisée, ouverte. D'accord ? Le producteur va devoir accepter de changer ses techniques de production et produire plus pour plus cher au kilo. Et le consommateur va devoir accepter que le prix de la nourriture augmente, refaire la cuisine, être plus sélectif dans ses achats et gérer ses priorités. Voilà. C'est en gros ça, l'ensemble de ce qu'il faut faire. Et comme il n'y a pas un bouton sur lequel appuyer et un seul, c'est pour ça que c'est compliqué.
Je vais rebondir sur l'aspect du coup, remettre les gens à la cuisine. Je vais me faire un peu l'avocat du diable sur ce coup-là. Dans l'hypothèse où une plaque à induction a une efficacité énergétique moindre qu'une grande usine agroalimentaire qui pourrait préparer ses produits, qu'est-ce qui se passerait du coup si demain tous les consommateurs se mettaient à utiliser leur cuisine plutôt qu'une usine agroalimentaire pour se nourrir ?
Eh bien, ça dépend d'où viennent les produits, mais en gros, vous économiseriez le plastique pour faire les emballages en sortie d'usine agroalimentaire. Vous économiseriez une partie du transport en camion si vous avez plus d'approvisionnement local en patates, en poireaux, en poulet et en œufs. Vous économiseriez une partie de la chaîne du froid et dans l'industrie agroalimentaire. Donc en fait, quand vous faites l'empreinte carbone globale, vous n'avez pas juste la plate à induction versus l'industrie agroalimentaire, sans compter qu'une bonne partie des centrales à vapeur dans l'industrie agroalimentaire fonctionnent au gaz et pas à l'électricité, qui est une énergie plus carbonée, le gaz, que l'électricité. Donc je pense que quand vous ferez le calcul, vous vous rendrez compte que tout bien pesé, c'est quand même un meilleur système si les gens font directement la soupe de poireaux chez eux, plutôt que de l'acheter chez Liebig avec un bel emballage en carton, ou plus exactement un emballage multifeuille autour.
Merci d'avoir remis le diable à sa place, du coup. Sans transition, on va mettre les pieds dans le plat. Comment se préparer à une décroissance générale? Et est-ce que agir sur l'agriculture pourrait permettre d'entraîner le reste de la société dans le mouvement?
Alors, une décroissance générale de quoi?
Une décroissance généralisée de l'économie, du modèle.
Alors, comment s'y préparer? Ben, je repose la question. Est-ce que je m'adresse à vous dans cette histoire ou à la personne qui vient faire le ménage ici à 6h du matin? Parce que, non, justement, la réponse n'est pas du tout la même. Parce qu'elle, elle y est déjà. je l'ai dit tout à l'heure, si vous regardez les indicateurs physiques de l'économie, en fait, ça fait maintenant, depuis 2007, et ce n'est pas un hasard, qu'en Europe, il diminue. Alors, c'est quoi mes indicateurs physiques de l'économie? C'est les tonnes chargées dans les camions. Que les tonnes chargées dans les camions, c'est un très bon indicateur physique de l'économie, et ces tonnes chargées dans les camions décroissent depuis 2007 en Europe. Les mètres carrés construits par an décroissent en Europe depuis 2007. Donc, quand vous regardez ces indicateurs-là, vous vous rendez compte qu'en fait, la hausse du PIB est une hausse de façade. C'est un truc qui ne veut plus dire grand-chose. Et en fait, depuis 2010 même, le revenu disponible des ménages, en moyenne, décroît légèrement. Donc c'est pour ça que ce n'est pas du tout une boutade. Quand je dis la personne qui vient ici à 6h du matin, elle est déjà, de fait, dans la question. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, un, système D, et deux, elle vote RN. Voilà, ou elle ne vote pas. C'est exactement comme ça qu'elle... Non, mais c'est... je ne plaisante pas. C'est exactement comme ça qu'elle se présente. Et une bonne partie de l'élite à laquelle j'appartiens est totalement aveugle aux causes profondes de ce qui est en train de se passer et s'imagine qu'on contre le RN avec des discours incantatoires. Non, non, ça ne sert à rien. Parce que la cause profonde, elle est physique. Tant que vous ne traitez pas la cause profonde, vous ne traiterez pas le symptôme du mal. Donc comment on s'y prépare ? Alors on s'y prépare, ou plus exactement, comment on y répond ? Je pense qu'on y répond en prenant pas les gens pour des cons, en leur expliquant, même si c'est parfois pas très sympathique, où on en est vraiment. Et la première manière de ne pas prendre les gens pour des cons, c'est que les gens qui sont aux manettes, que ce soit dans le secteur économique ou dans le secteur politique, ou dans le secteur associatif parfois, fassent eux-mêmes l'effort de comprendre quelle est la situation. Effort qu'ils ne font pas toujours, qu'ils font de temps en temps, mais qu'ils ne font pas toujours. La deuxième chose, c'est ensuite en ayant des modes d'action dans lesquels on ne sépare pas l'effort collectif de la répartition de l'effort. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, moi je serais très intéressé à ce qu'il y ait des études sociologiques un peu approfondies où on pose aux gens la question qui est quel effort vous êtes prêt à faire à condition que. D'accord ? Si on force M. Bernard Arnault à descendre de son jet privé, est-ce que oui ou non vous êtes d'accord pour prendre un peu moins l'avion ? D'accord ? Et aujourd'hui, on ne pose pas cette question. On leur demande est-ce que vous êtes d'accord pour prendre moins l'avion ? Bon, en fait, les gens, une partie vont y répondre en se disant tant que M. Bernard Arnault monte dans son jet privé, je ne vois pas pourquoi moi, on viendrait me faire chier avec mon vol en avion. Je suis sûr qu'une partie des gens pensent comme ça quand ils répondent. Et je ne sais pas quelle proportion. Je ne sais pas si c'est 1% ou 90% des gens qui répondent non, mais il y en a une partie. Donc, mais je suis fermement convaincu que la question de l'équité est indissociable de la question de l'effort collectif. Et aujourd'hui, dans un monde dans lequel les inégalités recommencent à augmenter après avoir très fortement diminué, il faut quand même le dire, grâce à l'abondance énergétique. Pour vous donner un chiffre, les 1% des Français les plus riches en 1900 détenaient 60% du patrimoine des Français. D'accord ? 60% de la totalité du patrimoine des Français était détenu par 1% de la population en 1900. Au moment du choc pétrolier, qui a correspondu au minimum, pour des raisons énergétiques, ou au maximum d'égalité, ou au minimum d'inégalité, le pourcentage avait été divisé par 4. C'est-à-dire que le 1% des Français les plus riches ne détenait plus que, entre guillemets, vous allez me dire c'est trop, peut-être, ok, mais c'était que 15% du patrimoine des Français. D'accord ? L'émergence des classes moyennes, c'est le pétrole. Dans un monde dans lequel ça part dans l'autre sens, le danger, et en fait c'est un danger qu'on est déjà en train de constater aujourd'hui, c'est que les inégalités se creusent, et c'est très exactement ce qui est en train de se passer à petite vitesse pour le moment, depuis les chocs pétroliers, c'est-à-dire depuis le moment où on est passé en France à un arrêt, depuis le moment où on a vécu l'arrêt de la hausse de la quantité d'énergie disponible par personne, c'est ça les chocs pétroliers, et depuis 2007 où on est en décrue de l'approvisionnement énergétique disponible par personne en Europe et en France, les inégalités ont commencé à augmenter de manière significative. Et il y a une très bonne ça s'explique assez simplement, pour des raisons physiques. Moi, je pense qu'on n'ira nulle part si on ne traite pas ce problème. Et je dis ça en faisant partie des gens qui seront tondus. Moi, je fais partie des gens qui seront tondus dans cette histoire, puisque je fais partie aujourd'hui des gens qui ont profité du système. D'accord ? Je suis cadre supérieur, je gagne très bien ma vie, donc je fais partie des gens qui sont tombés. Mais je suis fermement convaincu qu'on n'y arrivera pas sans gérer cette question de la répartition de l'effort. Il y a des mesures qui sont anecdotiques dans les émissions, mais emblématiques dans la répartition de l'effort. Je parlais des jets privés tout à l'heure, pour moi ça en fait partie. Voilà, c'est anecdotique dans les émissions, mais emblématique dans la... Voilà, donc la question de comment on y répond à cette décrue, il y a notamment cette question-là. Il y a la question, et ça va avec l'organisation de l'action collective. L'organisation de l'action collective, elle va avec des grands... Alors après, je pourrais en parler des heures, mais avec un grand cadre et une délégation. Elle va avec une cohérence d'ensemble, qui aujourd'hui est quelque chose qui nous fait cruellement défaut. Elle va avec une vision claire des effets d'éviction. J'en ai parlé tout à l'heure sur la biomasse. Hein. Si vous faites de la biomasse pour le bois, vous n'en ferez pas pour le biogaz. Voilà, bon. Et elle va avec, ça répond aussi à la question qui m'a été posée tout à l'heure sur le sens, elle va, alors c'est peut-être un peu grandiloquent ce que je vais vous dire, mais elle va avec le sens d'un destin national. Le bouquin de Todd là, que je suis en train de finir de lire, que je vous conseille de lire, La défaite de l'Occident, très intéressant, il parle justement du substrat anthropologique des États, d'accord, de ce qui fait que des substrats culturels et humains des États. Et ce qu'il explique aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'État-nation est un truc qui est en train de se dissoudre Mais ça se dissout parce qu'il n'y a pas de dessin derrière, il n'y a pas véritablement de projet. En quoi est-ce que le projet porté par un représentant de l'élite française est différent aujourd'hui du projet porté par un représentant de l'élite économique espagnole, italienne, russe ou américaine ? Tout ça se ressemble beaucoup, quoi. Russe un peu moins, mais... Non, mais effectivement, russe un peu moins. Mais américaine, voilà. Eh bien, donc ça va aussi avec un dessin, c'est-à-dire un projet politique d'ensemble. Donc on n'y arrivera pas avec un projet sans quelque part l'émergence d'un projet politique d'ensemble. Voilà. Donc tout ça, c'est des conditions du succès. Ça ne vous dit pas encore le pourquoi du comment dans le détail. Mais il y a un certain nombre de trucs qu'il faut qu'on arrive à faire.
Merci beaucoup. Dans les jours précédents, un papier sur une future décroissance démographique globale a été publié par certains démographes, américains il me semble, et donc circule dans les médias. Est-ce qu'une future décroissance potentielle de la population humaine serait vraiment une bonne nouvelle pour une décroissance économique globale ?
Ah bah, ça facilite les choses. Je ne sais pas si vous savez, mais après la Grande Peste, vous avez eu la Renaissance. La Grande Peste au Moyen-Âge a été quelque chose qui a permis une formidable augmentation du niveau de vie des survivants. Pourquoi ça ? Parce que vous avez laissé l'appareil productif intact avec moitié moins de gens derrière. Alors, un des trucs qui s'est passé à cette époque-là, c'est que les moulins qui étaient utilisés pour moudre le grain, vous en avez un sur deux qui n'était plus nécessaire, et ils ont été utilisés pour développer la proto-industrie de l'époque. On en a fait des soufflets de forge, des foulons de tannerie, etc. Et c'est ça qui a, quelques décennies, enfin un peu plus que quelques décennies après, conduit à la Renaissance, un siècle après. Voilà. Donc, une décroissance de la population avec une bonne épidémie, ça ne serait pas très drôle sur le moment, mais par contre, ça serait une façon très très indolore de marier une pas trop grosse régression du niveau de vie avec les limites planétaires. Bon, je ne le souhaite pas vraiment, mais c'est pour dire qu'une décroissance de la population, évidemment que ça aide. Alors la décroissance douce, bah, c'est juste la décroissance dans laquelle on fait un peu moins d'enfants qu'il n'y a de morts, voilà. Parce qu'on finit quand même tous par mourir un jour ou l'autre. À ce moment-là, ça préserve, entre guillemets, le niveau de consommation des gens qui ne meurent pas. C'est absolument évident. Maintenant, est-ce qu'aux échelles de temps qui nous concernent, ça va changer grand-chose ? Malheureusement, la réponse est non. Enfin, hors pandémie, la réponse est non. Parce que quand vous voyez qu'il faut que les émissions de gaz à effet de serre soient divisées par 3 dans les 30 ans qui viennent, pour se limiter à 2 degrés de réchauffement, bah, si dans les 30 ans qui viennent, plutôt que d'être 8 milliards, on est 9 ou 7, fondamentalement, ça ne change pas les ordres de grandeur, quoi. Au lieu de revenir à une 2 chevaux de 500 kg, dans un cas, vous revenez à une 2 chevaux de 550 et dans l'autre, c'est 450. Enfin bon, c'est pas une grosse différence. Dans un cas, vous avez un parc de voitures qui est divisé par 3,3 et dans l'autre cas, par 2,9. OK, bon, mais pas une différence révolutionnaire. Donc aux échelles de temps qui nous intéressent, ça ne change pas grand-chose. À des horizons de temps plus lointains, c'est évident que de toute façon, la population va finir par diminuer. C'est absolument évident, parce qu'aujourd'hui, elle est hors d'état d'équilibre.
Merci. Je vais finir avec une dernière question. Peut-on éviter les comportements de passagers clandestins dans les politiques mondiales pour le climat, et notamment en agriculture ?
Alors la réponse est non. Et on les évite d'autant moins qu'on reste dans un système ouvert aux quatre vents. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous ne pouvez pas marier protection locale du système et concurrence mondiale. À un moment, ça ne flotte pas. Voilà, la réponse est non. Alors c'est évidemment... par ailleurs, je ne suis pas un adversaire par nature de tout commerce et de toute forme de mondialisation. La mondialisation, c'est très ancien. Dans les temps anciens, on mondialisait les épices, la soierie, les pierres précieuses, les métaux précieux, les esclaves, malheureusement. Donc il y avait un certain nombre de trucs qui étaient parfaitement mondialisés. Mais on ne mondialisait pas les pierres de construction, on ne mondialisait pas le bois de construction, on ne mondialisait pas les céréales. Même aujourd'hui, en fait, hein, comme vous le savez probablement, le commerce mondial de céréales, c'est 15% de la production. Hein, c'est d'autant plus stupide de mettre les prix d'équilibre de tous les marchés domestiques partout sur un truc qui fait 15% des échanges physiques. Bon. Donc, je ne vois pas pourquoi les échanges de blé entre une minoterie française et un agriculteur français seraient basés sur la bourse de Chicago. Juste, zéro justification à ça. Donc cette ouverture aux quatre vents, et on voit bien aujourd'hui du reste que l'Europe, alors elle a beaucoup de mal dans le domaine agricole encore, mais dans d'autres domaines, elle est tiraillée entre deux pôles d'attraction qui sont d'un côté le marché et de l'autre la préservation de l'environnement, qui est quand même un truc qui est en train de monter de manière très très forte dans les politiques européennes. Et on voit bien que du côté préservation de l'environnement, les réponses qui sont faites en matière réglementaire sont des réponses d'encadrement, d'obligations réglementaires, et sont des réponses qui ne sont pas des réponses, entre guillemets, de libre marché. Quand vous dites aux constructeurs automobiles, vous allez me faire que des bagnoles électriques et éventuellement trois véhicules à hydrogène pour amuser la galerie, vous n'êtes pas du tout dans un univers libéral dans lequel vous leur dites faites ce que vous voulez. Vous leur dites au contraire, les petits cocos, là, vous allez me faire ça. Alors, ça ne se double pas d'une politique industrielle, et c'est là que le bât blesse, c'est-à-dire qu'on ne leur dit pas, dans le même temps, on va vous donner les moyens de résister à BYD. Donc en fait le consommateur on va le forcer à acheter des véhicules électriques et juste ils vont être chinois. Bon, ça c'est stupide, mais par contre c'est stupide du point de vue des Européens, c'est vachement bien du point de vue des Chinois, mais par contre on pourrait très bien, on devrait aller jusqu'au bout du raisonnement. Alors on commence à le faire de plus en plus, par exemple sur l'empreinte carbone des batteries, il y a une réglementation européenne qui va limiter les importations. Sur le système de bonus-malus qu'on a maintenant en France, vous avez l'inclusion de l'empreinte carbone de fabrication du véhicule, ce qui de fait est une mesure en défaveur des importations. Donc on voit bien que de plus en plus, vous avez un... Et puis maintenant, tout le monde a à la bouche le mot de souveraineté qui veut tout dire et rien dire. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on essaye de marier de plus en plus ces deux trucs, mais pour le moment, le bastion qui résiste vraiment, c'est le bastion mondialisation dans les politiques commerciales, et on veut signer le CETA, et on veut signer ceci. Alors peut-être que c'est une bonne chose de signer le CETA, je ne sais pas, je n'ai pas regardé le dossier dans le détail. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on reste dans cet univers dans lequel tout traité de libre-échange est bon à prendre, en gros, alors que je pense qu'il faudrait qu'on regarde les choses de façon un peu plus détaillée. Mais j'insiste sur un point, on n'arrivera pas à conjuguer un truc ouvert aux quatre vents et du développement. Et en fait, quand vous regardez dans l'histoire, ça ne s'est jamais fait. Tous les grands développements industriels, tous les grands développements de filières ont toujours été faits à l'abri d'une protection domestique, toujours, y compris aux États-Unis, surtout en Chine, etc.
Merci beaucoup. On va passer maintenant aux questions.
Ah. C'est bon là? Wow, ok. Alors, moi je m'attendais à ce qu'on parle un petit peu plus d'agriculture. On a beaucoup parlé de société, d'économie, de tout ce qui, concrètement, dans notre société, enrobe en fait l'agriculture. Mais comme vous n'êtes pas agronome de formation, je vais juste me focaliser sur la place du numérique et de la mécanisation dans l'agriculture. Avoir plus votre opinion là-dessus, dans une perspective évidemment de croissance démographique, de souveraineté alimentaire, même si ce mot ne veut rien dire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ?
Alors, sur la mécanisation, je vois à peu près. Sur la numérisation, je vois moins. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire des tracteurs pilotés par GPS et commandés par des robots et je ne sais pas quoi ?
D'accord. Voilà, typiquement, tout ce qui va être... agriculture de précision numérique qui en fait demande une puissance de calcul des serveurs, tout ça, enfin bref.
Alors, le digital, je vais déjà vous citer tous les problèmes auxquels il ne répondra pas. Il ne répondra pas à la déspécialisation des bassins agricoles pour cause de manque de pétrole. Il ne répondra pas au stress hydrique qui va nécessiter de déplacer les abricotiers du Roussillon en Bretagne. Il ne répondra pas, déjà ces deux problèmes importants, et par ailleurs, il a besoin d'une économie mondialisée, parce que dans un système digital, vous avez 50 métaux différents, donc dans une économie qui se démondialise, en plus, votre système digital, vous ne l'aurez pas. Au moment du Covid, vous avez eu une compétition très forte entre les opérateurs télécoms et les constructeurs de voitures pour avoir des microcontrôleurs et d'autres composants électroniques. C'est les opérateurs télécoms qui ont gagné et les chaînes de construction de voitures se sont retrouvées à l'arrêt. Au moment où il y a eu une grande sécheresse à Taïwan, les fondeurs de semi-conducteurs, qui sont pour beaucoup à Taïwan et qui ont besoin de beaucoup d'eau, ont ralenti leur production. Donc, en fait, l'agriculture de précision, elle, pardon de vous taquiner un peu, elle postule ce monde toutes choses égales par ailleurs, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le monde de demain, il va continuer à y avoir une économie mondialisée capable de fabriquer des puces à profusion et capable de lancer des satellites dans l'espace pour fournir un système GPS, etc. Peut-être que oui, peut-être que non. Sinon, on fait quoi ? Voilà, donc votre système, enfin exactement ce système, parce que ce n'est pas le vôtre, ce système, il a un élément de résilience qui n'est pas du tout présent. Et je pense que c'est beaucoup plus résilient d'avoir un certain nombre de gens qui acceptent de continuer à conduire des tracteurs et de faire en sorte que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on se retrouve dans un système dans lequel la production agricole, on est sûr qu'elle passe la rampe dans un monde dans lequel un certain nombre de conditions sont cessent d'être favorables. Et notamment la question du changement climatique. L'agriculture de précision, c'est vachement bien si on a des endroits qui sont stables en termes de bassins de production, où on peut organiser le système, etc. Et j'insiste, si les moyens disponibles sont là en termes technologiques. Sur la mécanisation, alors là, la mécanisation, elle peut être beaucoup plus frustre qu'avec du digital. Parce que les premiers tracteurs, ce n'étaient pas des engins de haute technologie. Hein, c'était un moteur à combustion interne, un peu de mécanique, et hop, roule. Bon. Alors ça peut assez facilement perdurer, parce que tant que vous aurez un peu d'acier, la quantité d'acier dont on a besoin dans le monde pour fabriquer les tracteurs, c'est pas grand-chose. La quantité de tracteurs dont on a besoin pour faire l'agriculture, c'est pas grand-chose par rapport à l'ensemble de la puissance mécanique dont on dispose dans le monde. Des camions, des voitures, etc. C'est négligeable par rapport à ça. Du reste, les émissions de CO2 des tracteurs sont négligeables dans les émissions agricoles. On est de l'ordre de 2% ou 10%. Enfin, c'est des émissions importantes, c'est vraiment les engrais, la fermentation entérique, les rizières, des trucs comme ça. CO2 et tracteur, c'est pas grand-chose. On peut assez facilement... Alors, autant les agrocarburants pour la voiture de monsieur et madame tout le monde, je pense que c'est une ânerie, autant les agrocarburants pour les tracteurs eux-mêmes, je pense que c'est un truc intelligent. Donc, la première destination énergétique des cultures devrait être le maintien de la mécanisation agricole, parce que le temps qu'on convainque 3, 5 ou 10% de la population française de retourner dans l'agriculture, il va se passer quelques semaines, quelques mois, quelques années. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça se fait de moins en moins aujourd'hui, comme vous le savez probablement. On a même de la difficulté aujourd'hui à assurer le renouvellement des quelques centaines de milliers d'agriculteurs. Quelques centaines de milliers sur 25 millions d'actifs dans ce pays. D'accord ? Et on a du mal. Bon. Donc je pense que la mécanisation, on n'est pas parti pour s'en passer demain matin, et même ce n'est pas souhaitable. Je veux dire, il y a des trucs pour lesquels je pense que ce n'est pas souhaitable de s'en passer. La première destination des cultures énergétiques devrait être pour la mécanisation agricole, et que de la mécanisation agricole, on va en garder. Par contre, est-ce qu'on a besoin de garder les engins qui aujourd'hui servent aussi pour partie d'engins de statut dans le monde agricole ? Non, on peut optimiser, on peut mutualiser. Par exemple, vous avez avec les CUMA, vous pouvez très bien avoir un gros, un petit tracteur, et en fonction des travaux dont vous avez besoin, vous prenez le gros ou vous prenez le petit, vous n'avez pas besoin de prendre toujours le gros qui consomme beaucoup pour des travaux qui ne demandent pas beaucoup de force motrice. Avec la généralisation de la culture sans labour, si on le fait, vous avez besoin de tracteurs qui sont moins puissants, donc qui consomment moins, donc vous avez besoin de moins de mécanisation, etc. etc. Donc, en fait, vous avez des secteurs dans lesquels, le maraîchage par exemple, dans lequel la traction animale, on n'est pas très très loin, et puis en plus vous avez le fumier à domicile grâce à ça, on n'est pas très très loin d'être level playing field, pour prendre une expression bien française, avec de la mécanisation. Sur certaines cultures. Donc voilà, donc vous avez toute une palette, j'ai envie de dire. Par contre, ce qui est absolument évident, c'est qu'à l'horizon d'au moins une génération, on ne se passera pas de mécanisation, et même plus, on ne se passera pas délibérément de mécanisation dans l'agriculture. Ça flotte pas, quoi. Voilà. Voilà. Oui. On va la voir de toute façon. On va devoir le gérer. Alors collectivement, prêt, non, parce que les gens ne sont pas prêts aujourd'hui à assumer l'inflation alimentaire. Et par ailleurs, les surcoûts dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les emballages, le camion, etc., sont générés par le fait que les gens habitent en ville, où ils ne poussent rien. Donc tant que les gens habiteront en ville où ils ne poussent rien, vous aurez besoin de transport. Tant que vous aurez transport, vous aurez des emballages, vous aurez des chaînes du froid, vous aurez etc. Donc vous avez tout un tas de coûts induits simplement par le fait que les gens ne sont pas là où ça pousse. Rien que lié à ça. Est-ce qu'on va pouvoir éternellement préserver les rendements actuels ? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que il y a un certain nombre, parce que la disponibilité énergétique actuelle, elle n'est pas garantie, parce que vous avez le comment dire, parce que vous avez encore une fois une érosion des sols qui est à l'œuvre, parce que les engrais de synthèse aujourd'hui demandent du gaz et sans gaz, on n'a plus d'engrais de synthèse, etc. Donc est-ce qu'on va éternellement les garder ? Je ne sais pas. Je ne suis pas complètement sûr. Par contre, il y a un certain nombre de régions dans le monde où aujourd'hui, ça augmente les rendements. Hein. Précisément parce qu'ils sont en train de passer aux méthodes que nous, on a utilisées en Occident. Qu'est-ce que je veux dire ? Mais à mon avis, à terme, c'est absolument évident qu'on va avoir une inflation alimentaire, pour appeler un chat, au niveau des produits en sortie d'exploitation. Ça me paraît absolument évident. Donc, ça veut dire qu'il faut s'y préparer. Voilà, il faut s'y préparer.
Oui, monsieur, bonjour. Merci d'être là déjà. J'aimerais rebondir sur ce que vous aviez dit sur le fait de convaincre... Enfin, sur le fait que ce n'est pas en martelant le RN qu'on allait arriver à des solutions dans le sens écologique, je veux dire, si je ne transforme pas vos propos... Pour rester dans une question un peu politique, je voulais vous demander, je crois que je ne suis pas le seul ici à constater que dans l'espace public, dans le débat public aujourd'hui, en France et en Europe en général, il y a la progression de ce qu'on peut appeler une idéologie qui consiste à utiliser la rhétorique de la liberté contre le climat. Et je pense que vous l'avez beaucoup, du moins vous y avez beaucoup fait face lors de vos interventions télévisées, notamment sur la liberté de chacun d'avoir un SUV, la liberté de ne pas être limité à 4 vols transatlantiques au cours de sa vie. J'aimerais avoir votre avis sur cette tendance. Est-ce que selon vous, c'est quelque chose de négligeable ou au contraire, c'est quelque chose qui est en progression et qui contrefait un peu l'urgence climatique et les combats qu'elle sous-tend ? Et selon vous, quelles peuvent être les méthodes pour lutter contre cette progression idéologique, si je puis me permettre ?
D'accord. Alors, c'est un phénomène qui est réel. Et c'est un phénomène qui prend ses racines dans plusieurs causes. La première des racines, elle tient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à l'équité. C'est-à-dire, en fait, quand les gens reçoivent cette suggestion de privation de liberté, ils se disent « c'est juste pour moi, les autres en profiteront, passeront à travers, etc. » Donc ça, j'en veux pas. Il y a une deuxième racine qui est « j'ai acquis ce truc-là, on va quand même pas me l'enlever ». D'accord, c'est quand même sympa de prendre l'avion pour aller passer ses vacances ailleurs ou d'acheter une grosse bagnole, ou etc. Puis c'est quand même bien pratique, et puis ceci, et puis cela, donc on ne va pas me l'enlever. Il y a une troisième racine qui est « je ne vois pas ce que je gagne en contrepartie ». D'accord, voilà. Et en fait, l'époque récente, enfin, vous connaissez cette petite maxime qui est « la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». Et l'époque récente, basée sur une technologie déployée de façon très, je sais pas comment je dois dire, avec succès, nous a donné l'impression pendant un temps qu'on pouvait acquérir de plus en plus de liberté pour soi sans trop gêner celle des autres. Voilà. Et ce que le changement climatique amène dans cette affaire-là, c'est justement la négation de ce postulat. C'est-à-dire, en fait, ce gain de liberté qu'on a acquis va gêner celle des autres, par exemple celle de gens ailleurs dans l'espace et ailleurs dans le temps, à avoir des choses qui aujourd'hui nous semblent nécessaires. Manger, boire, pouvoir toujours vivre au même endroit, vivre dans la liberté de se déplacer, et un certain nombre de trucs comme ça. Donc c'est très perturbant, c'est très désagréable. Et ça demande de la pédagogie, de la conviction et la présentation d'alternatives dans laquelle il y a également des gains. Alors je vais reprendre l'exemple à la noix de la voiture dont je parlais tout à l'heure et de la Porsche dont je parlais tout à l'heure. Si le fait de passer de la voiture au vélo vous amène un gain, qui est un gain de considération, qui est un gain de bien-être physique, parce que vous dites, tiens, si je pédale 5 km le matin, finalement, je me sens plus en forme, je suis moins stressé, etc. Je constate, je ne perds pas de temps à essayer de me garer, je constate que finalement, c'est bon pour mon moral, je me sens mieux. Donc si vous arrivez à faire en sorte que, exactement comme le type qui s'arrête de fumer ou qui s'arrête de boire, il faut lui mettre en face le gain qu'il va avoir, sinon il n'y arrivera pas. Bon. Là, c'est exactement pareil. Donc en fait, ça veut dire que cette privation apparente de liberté,
il faut arriver à mettre en regard une espèce de gain de liberté ou de gain quelque part en face, sous une autre forme. Voilà. Et il faut toujours commencer ce genre de truc par les cibles les plus faciles. Alors, je vais vous donner un exemple de cible facile pour le voyage en avion. C'est quand le voyage en avion consiste à se déplacer d'une ville mondialisée pour aller dans une autre ville mondialisée, où à part le monument qui n'est pas le même que chez vous, tout est identique, les mêmes marques de fringues, les mêmes marques de bouffe, tout. Est-ce que finalement, cette même personne ne se serait pas plus dépaysée en faisant 300 bornes en allant coucher chez l'habitant ou en allant dans une chambre d'hôte discuter avec des gens qui élèvent des moutons? Tiens, peut-être qu'il serait beaucoup plus dépaysé. Donc, il faut lui mettre en lumière le gain. Personnellement, je pense qu'il y a des cas de figure évidemment qui sont plus ou moins faciles. Par exemple, la personne qui va prendre l'avion pour aller voir sa famille qui s'est installée à l'étranger, c'est plus difficile de lui faire renoncer à l'avion que la personne qui part juste en vacances. Donc par ailleurs, il ne faut pas voir ces modifications comme des modifications monolithiques, c'est-à-dire c'est du tout ou rien, tout le monde bascule en même temps, etc. Évidemment que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et je vais vous faire un peu la même réponse que la réponse sur le premier job qui m'a été posé tout à l'heure. Si on veut concourir à ce que les choses aillent dans le bon sens, il ne faut pas s'attaquer à tout à la fois, sinon on n'y arrive pas. Il faut se choisir un combat gagnable. Et comprendre à qui on va s'adresser, comment est-ce qu'on va essayer de s'y prendre, et comment est-ce qu'on va essayer de faire en sorte que les gens en aient eux-mêmes envie, parce que sinon on n'y arrive pas, parce qu'on est capable de leur mettre en lumière les avantages liés au changement. Voilà, mais il n'y a pas tellement d'autres manières de... Donc dans un changement, s'il y a renoncement, il doit y avoir gain quelque part. Alors le gain de liberté, on peut essentiellement y arriver, mais c'est plus désincarné déjà. À dire, si le fait de s'occuper sérieusement de ces questions environnementales permet, même au prix d'une restriction de notre liberté immédiate, donc vous n'avez plus la possibilité d'acheter un engin de 2 tonnes, vous conservez juste la liberté d'acheter un engin de 1,2 tonnes, ce qui est, entre nous, pas cher payé. Hein. C'est quelque chose qui permet collectivement de concourir à ce qu'on maintienne la liberté d'aller et venir dans un engin de 1,2 tonnes, alors qu'en gardant l'engin de 2 tonnes, vous courez le risque qu'on n'ait plus le droit d'aller et venir du tout, parce que bazar géopolitique, parce que bazar sociologique, parce que bazar de ceci, parce que bazar de cela. À ce moment, peut-être qu'il y a un certain nombre de gens qui acceptent d'adhérer à cet arbitrage. C'est-à-dire, je me prive d'un petit quelque chose tout de suite, qui n'est pas un gros quelque chose, au profit de quelque chose que je garde plus tard. C'est exactement le principe de la prime d'assurance, hein, qu'un certain nombre d'entre nous payons dans un certain nombre de cas de figure. Voilà, donc c'est pas nécessairement perdu d'avance, ce combat-là. Mais c'est clair qu'il faut un peu de créativité, un peu d'imagination et identifier la part du positif dans le changement, parce que même si j'aime pas le terme d'écologie punitive, si on est juste sur la part négative du changement, c'est beaucoup plus difficile d'entraîner les gens, c'est absolument évident.
Oui, bonjour, merci beaucoup. Pour revenir un peu sur la question par rapport aux politiques, je me posais la question, en fait, nos démocraties actuellement, elles sont largement fondées sur ce système de consommation qu'on a là. Et comme vous avez pu le répéter plusieurs fois, on va devoir être amené à moins consommer. Et vous avez même évoqué des votes un peu plus extrêmes, comme par exemple le Rassemblement national, etc. Comment on peut... Est-ce que notre démocratie, elle pourra faire face à ça? Et comment faire pour qu'elle puisse y faire face, si tant est qu'on veut qu'elle y fasse face, ou quel autre modèle on pourrait imaginer voilà.
D'accord. Alors, je vais commencer par une taquinerie. Est-ce qu'entre le Rassemblement national en France et les Républicains aux États-Unis, qui est-ce que vous mettriez comme étant les plus extrêmes ?
J'imaginais plus la démocratie.
Oui, non, mais vous allez voir pourquoi je vous pose cette question. Qui sont les plus extrêmes pour vous ?
Ce n'est pas les mêmes extrêmes. D'un côté.
Pour moi, c'est très clairement les Républicains américains.
Ok. Voilà.
D'accord ? Ils sont beaucoup plus azimutés. Alors, c'est clair que dans le langage français, on appelle le Rassemblement national un parti d'extrême. Mais il faut voir extrême par rapport à quoi. D'accord. À une époque, parce que vous n'avez pas connu, mais à une époque où Jacques Chirac, qui était représentant de la droite, était président américain, une blague française consistait à dire qu'il était à la gauche de Tony Blair, qui était lui un travailliste anglais. Bon. Voilà, donc c'est juste que les extrêmes, il faut toujours voir extrême par rapport à quoi. Là, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a des gens que j'aime beaucoup au RN, je suis juste en train de vous dire que voilà, ça reste un extrême par rapport au fait que la France était quand même un pays globalement très, je ne sais pas si je dois dire modéré, enfin, bon. Démocratie et consommation sont, pour Tocqueville, consubstantielles. C'est-à-dire que si vous lisez ou relisez de la démocratie en Amérique, écrit en 1840 ou 30, je ne sais plus, j'ai oublié à l'époque, j'étais pas né, c'est sûr, Tocqueville écrit... la démocratie amènera la consommation de masse. Il écrit des trucs extraordinaires. Il écrit justement que les produits à vendre de luxe se démocratiseront. Il écrit qu'on fera des produits médiocres pour la masse et plus du tout des trucs travaillés avec soin. Il écrit qu'on aura de la publicité. Il est extraordinaire. Donc, et j'insiste, hein, c'est 1840, j'ai oublié. Donc, est-ce qu'on peut garder la démocratie en réfrénant la consommation de masse? Alors, la réponse est, il faut le souhaiter, mais ce n'est pas gagné d'avance au sens où ça doit être un effort de tous les instants. Dit autrement, on ne peut pas se dire à un moment, on aura trouvé une martingale dans la façon dont le système est organisé, donc on passe du capitalisme à autre chose, et tout d'un coup, pof, ça fait disparaître les tentations consuméristes. J'y crois pas une seconde. Ce à quoi je crois... c'est que tant qu'on laissera aux gens la liberté, ils l'exerceront. Et pour qu'ils n'exercent pas la liberté de consommer, en fait, c'est quelque part un codicille de la réponse précédente, il faut qu'ils n'aient pas envie de consommer. Et donc, il faut qu'ils voient la consommation comme un truc qui, globalement, les dessert. Alors, ça ne sera pas de tout. Moi, ce n'est pas demain matin que je vais voir la consommation de mon petit déjeuner comme un truc qui me dessert. D'accord ? Donc, bon. Donc il faut voir la consommation comme un truc qui dessert. Et ça renvoie également à une réponse que j'ai faite tout à l'heure, qui est sur les codes sociaux et les éléments de statut. Et il faut à un moment que le trop soit perçu comme un élément négatif de statut, au lieu d'être aujourd'hui perçu comme un élément positif de statut. Et ça, c'est un travail de tous les instants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire à un moment, on a organisé le système de telle sorte que tout ça disparaisse, tout ce qui nous emmerde, là, disparaît, et puis c'est le système qui fait le boulot. Ça n'arrivera jamais. C'est nous qui allons devoir faire le boulot en permanence. Alors, faire le boulot en permanence, ça s'appelle développer une culture, ça s'appelle développer des codes, ça s'appelle développer des pôles d'attraction et des interdits, ça s'appelle développer tous ces trucs-là, qui font qu'on aura envie, ou on arrivera à conjuguer démocratie, c'est-à-dire exercice de la liberté, et absence de l'utilisation de cette liberté pour consommer à outrance, entre guillemets, l'outrance étant très relative dans cette histoire, puisque pour mettre les pieds dans le plat, même le mode de vie d'un smicard français aujourd'hui n'est pas durable, hein. Bien comprendre que même le mode de vie aujourd'hui d'un smicard français excède les limites planétaires. Donc, c'est ça le travail qu'on a à faire sur nous-mêmes, et c'est un travail vraiment pas simple. Voilà. Et c'est un travail qui aujourd'hui n'arrivera pas par la classe politique installée. Donc, si on veut que ce travail ait lieu, il doit démarrer dans la société civile. La classe politique installée ne fera pas ce boulot. Peut développer si ça vous intéresse, mais il ne fera pas ce boulot.
On va prendre une dernière question pour terminer.
Bonsoir, merci pour votre conférence déjà. Je voulais rester dans la thématique politique et j'avais une question concernant en fait...
Vous vouliez parler d'agriculture, ça intéresse personne.
Une question concernant le modèle en fait quinquennal qu'on a en France et qu'il y a dans beaucoup de pays. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait une réforme de ce modèle et qui permettrait en fait des politiques environnementales ayant une vision à plus long terme et donc voilà, abolir le quinquennat et...
Alors vous savez qu'à une époque, on avait des élections présidentielles avec des septennats et il y a une longue... il y a eu un long débat pour savoir si c'était pertinent ou pas d'être passé au quinquennat. Personnellement, moi je pense que c'était... pas nécessairement une très bonne idée, parce qu'effectivement, ça raccourcit les échéances. Quand vous êtes en quinquennat, en gros, vous gouvernez pendant 3 ans et demi, et puis un an et demi avant l'élection. vous vous transformez en candidat. Donc vous perdez du temps. C'est clair que si vous êtes en septennat, bah, vous avez un an et demi de perdu sur 7 ans, et c'est en proportion moins qu'un an et demi de perdu sur 5 ans, c'est clair. Mais le rythme de l'élection ne fait pas tout. Alors je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui en France, tous les Français sont attachés au fait qu'on ait la sécurité sociale. Quasiment tous. C'est très très rare de croiser un Français qui vous dise, alors vous avez 70 millions de Français et 70 millions d'avis sur la façon dont il faut gérer la sécu, ça c'est clair. Mais vous avez à peu près qu'un seul avis sur le fait que c'est bien d'en avoir une. Est-ce que, du coup, malgré les élections tous les 5 ans, on est à risque de perdre la sécu parce que tout d'un coup, quelqu'un dirait on va supprimer la sécu? Non. Alors, effectivement, il y a des gens qui vous disent « Ah, les immigrés, il ne faudrait pas qu'ils aient droit à tel type d'allocation. » Mais c'est des modes de gestion. Critiquables, pas critiquables, j'en sais rien, mais c'est des modes de gestion. Mais le vrai sujet, c'est que personne ne dit « On va supprimer le système. » La seule barrière à ce que vous évoquez, et quelque part, c'est un complément à la réponse précédente, sur comment faire coexister exercice de long terme et démocratie, c'est que la société civile ait envie de l'objectif de long terme. Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver. Et en fait, même si on avait une élection tous les 20 ans, vous ne seriez pas à l'abri de revirements si la société civile ne désirait pas. Puis du reste, si elle ne désirait tellement pas, elle ferait la révolution avant les 20 ans. C'est ce qu'elle a fait parfois avec des monarques, des insurrections, des machins, etc. Donc, j'ai envie de dire, la vraie solidité de la direction qu'on prend, elle n'est pas tant dans le pas de temps des élections, même si c'est clair qu'aujourd'hui, on pourrait améliorer un peu le système. Elle est surtout et avant tout dans l'envie profonde des électeurs et de la société civile et des corps intermédiaires et des décideurs économiques, etc., de partir dans une direction qui est différente de ce qu'on fait actuellement. Je vais revenir à la question qui a été posée tout à l'heure sur la PAC. Donc moi, je vais quand même un peu parler d'agriculture. La PAC est aujourd'hui une compétence exclusive de l'Union européenne. Sauf que dans l'Union européenne, vous avez quand même deux pays qui pèsent d'un poids particulier, qui sont l'Allemagne et la France. Et si notre pays disait « là, il y a des trucs, c'est juste ligne rouge, il n'y a juste pas question d'en entendre parler », parce que ça correspondrait à la volonté profonde d'une coalition du pays entre les consommateurs et ses agriculteurs en disant « on va aller dans telle direction et on est prêt à en payer le prix », c'est évident que ça aurait un impact sur la structuration de la PAC. C'est absolument évident. Donc, à un moment, je n'ai pas envie de dire « tout part de l'électorat », parce que ça serait se mentir. Et j'en reviens au bouquin de Todd, dans lequel il dit qu'on n'est plus des démocraties, mais des oligarchies. Ce n'est pas complètement faux. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes de verrouillage du pouvoir au sein d'une élite, dont Todd dit de façon très cruelle, mais pas complètement fausse pour ce que j'ai pu en observer, qu'aujourd'hui, l'élite n'a plus l'ambition de défendre les intérêts du peuple. Elle n'en a plus l'ambition, et ce n'est pas complètement faux, malheureusement. Mais quand même, il y a quand même quelque chose dans le destin commun qui appartient à l'envie profonde de la société civile d'aller dans une direction. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, pour reboucler avec la première question qui m'a été posée, la question du sens, si les gens qui sortent de cet établissement veulent bien faire mentir Todd en disant qu'ils souhaitent se remettre au service de la population dans son ensemble pour qu'on ait une direction commune qui fasse sens, alors je pense que ça sera une bonne chose.
On a juste une dernière question par parité pour ceux qui sont en visio. Il y a une personne qui demande ce que vous pensez des crédits carbone en agriculture.
Ça peut aider. Alors les crédits carbone, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est de donner de l'argent à une exploitation agricole à partir du moment où cette exploitation séquestre du carbone. Donc c'est par exemple planter des haies, enfin c'est toutes les techniques qui permettent de renforcer le contenu carbone du sol, planter des haies, l'agroforesterie, le couvert végétal permanent, la culture sans labour qui ne permettent pas de déstocker, enfin bref, etc. Culture sans labour, encore que la culture sans labour, il y a un débat, parce qu'on se demande si ça ne modifie pas simplement le profil de stockage du carbone dans le sol. Et donc les agriculteurs qui font ça, ben, on dit, ben, voilà, vous plantez des arbres, il va y avoir des racines dans le sol, ça stocke du carbone, vous allez stocker tant de tonnes de carbone et je vous paye 40, 50, 100, 200 euros la tonne de carbone. Alors c'est quelque chose qui est parfaitement pertinent si on arrive à organiser le système, mais par contre quand vous faites des rapides calculs d'ordre de grandeur sur la quantité totale d'argent qui serait transférée par ce système, en provenance de gens à qui on donnerait des obligations de concourir au stockage de carbone de façon globale,
vous vous rendez compte que ça met un peu de beurre dans les épinards, pour rester dans un parallèle alimentaire, enfin dans une image alimentaire, mais ce n'est pas ça qui va suffire à payer de façon, ou à concourir de manière significative à payer la transformation du système. Voilà. Donc ce n'est pas idiot, ce n'est pas suffisant, on s'en fout.
Bien, super, merci à vous. J'espère que ça vous a plu, c'était ce débat riche. Merci à Louis, merci à Léa. Avant, on a une petite dernière chose à vous demander, si ça ne vous dérange pas, avant qu'on termine, c'est pour nos prochaines conférences, nos prochains événements, si vous pourriez juste flasher ce QR code et nous donner votre avis, ce que vous en avez pensé ou pas, si ça vous a plu, les questions qu'on a pu lui poser. On est désolé, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. Enfin, Jean-Marc Jancovici n'a pas pu répondre à toutes vos questions, mais on a essayé de faire respecter la parité entre les questions que nous, on avait préparées et les questions que vous avez à lui préparer. Sinon, je vous invite aussi à aller, si vous le souhaitez, sur nos réseaux, puisque les prochaines conférences, donc au mois de mai, ce sera au mois de mai, il y a Lise Bernéou sur les cellules buccionnaires qui devra venir pour nous parler du microchimérisme, donc à la suite du livre qu'elle a sorti sur les histoires folles du microchimérisme, l'enfant dont la mère n'était pas née. Et on aura aussi l'ancien président du Muséum national d'histoire naturelle qui viendra le 29 mai ici à l'Agro pour faire une conférence également. Donc n'hésitez pas à venir, toutes les conférences sont ouvertes aux excités. On remercie d'ailleurs Agro Paritech, donc et Laurent Buisson qui est parti mais qui était là au début de la conférence, de nous avoir accepté de vous faire venir tous, que ce soit les personnes extérieures comme internes à Agro Paritech, à la suite donc, des annonces du Premier ministre qui avait renforcé le plan Vigipirate. Donc merci à Agro Paritech, merci à vous et puis merci Monsieur Jancovici. À bientôt.